Deltaride, c'est plus que c'était.
Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Bonsoir à tout le monde, d'ailleurs pour le numéro 27 des voix d'Altaride.
Mais oui, bonsoir à tout le monde.
Alors ce soir, bonsoir. On est extrêmement nombreux.
On a l'équipe au complet, attention.
Ce soir, on n'a pas Sandra. Ce soir, on n'a pas Morgane. Ni Morgane, ni Anne, ni personne, ni Benoît. Ce soir, voilà. on a quand même, l'immense présence de Saint Globo.
Mais oui. Je suis là. Ça faisait longtemps, d'ailleurs. J'ai regretté de ne pas être là au podcast du jeu sur les films. Enfin, vous étiez très bon. Voilà.
Merci.
Sur YouTube, et c'était top.
Ouais, on n'a pas Callisto non plus. On n'a pas Shan. On n'a pas Antoine. On a personne, mais on a quand même Sir Willem en direct
oui.
de Londres.
Mais oui, Sir Willem.
Bonsoir.
Anobli par la reine. La reine herself.
En direct, herself.
Herself. Sir Willem. How are you tonight?
Donc ça, on va la faire dans.
Ouais.
C'est pas aujourd'hui.
Test en anglais.
Hein. Oui, on va faire le test en anglais. Hein. Tout le monde, attention, hein. ça va être excitant.
Alors, on va commencer par nos news. Diverses et variées, face à nos deux spectateurs généreux qui sont là, qui nous écoutent. Bonjour les gens.
Bonjour.
Alors Willem, podcast anglais, machin, c'est quoi cette histoire-là?
J'en ai parlé plusieurs fois pour faire de la promotion de mon propre podcast, j'ai invité l'équipe des Voix d'Altaride à venir joindre un épisode du podcast Ice Cream for Everyone, et je vais vous interviewer, on va faire ça en anglais. Donc on va parler de vous, de comment vous êtes tombé sur le jeu de rôle, et j'aimerais bien avoir une conversation un peu sur qu'est-ce que le jeu de rôle francophone venant de France pour à destination de rôlistes ailleurs, quoi, anglophones plutôt. Anglophiles peut-être. Hein.
Peut-être. Écoute, c'est bien parce que ça va permettre de décomplexer probablement un certain nombre de gens vis-à-vis de la pratique de l'anglais, n'est-ce pas?
Ouais. Et du coup, ce sera un épisode un peu crossover, un peu, hein.
C'est ça. On enregistre ça mercredi.
Ouais, on enregistre ça mercredi.
Mais par contre, on ne fait pas en direct là.
Non, on ne fait pas en direct. Alors, à moins que. Je n'ai pas prévu de le faire en direct, parce que moi d'habitude, je ne les fais pas de la même manière. Mais ceci dit, si je regarde comment on fait demain, peut-être que je pourrais le faire. En fait,
comment dire? Je pense que pour le.
Il faut mieux que je fasse comme j'ai l'habitude.
Le bien des nerfs de tout le monde, je pense que le fait que ce ne soit pas en direct, ça pourrait nous aider.
Ah, d'accord, donc pas en direct. Bon, on va faire comme d'habitude, ce ne sera pas en direct.
Voilà.
on aura le bénéfice du montage éventuellement.
C'est ça, voilà. C'est-à-dire que si jamais on est trop mauvais, Willem pourra nous doubler, comme il l'a déjà fait pas mal de fois.
on fera ça doucement, il y a le temps, tout le monde sera très bon, il n'y a aucun problème.
Alors, ce qui avait bien marché auprès des auditeurs, c'est le doublage façon National Geographic que j'avais fait pour Xavier lors d'une défaillance de micro.
Comment ça, du coup?
Eh bien, Xavier nous dit qu'il pense que le scénario est quelque chose qu'il faut complètement éviter en jeu de rôle.
Tu crois qu'il faudrait que je remonte le truc, et si jamais je pense que vous parlez pas assez bien, je fais des interventions.
Qui sait? Nous verrons. À part ça, quoi de neuf? Des interviews en cours?
D'autres interviews en cours. Alors, j'ai eu un peu pas trop de jeux là récemment. Des studios de jeux narratifs, des studios de jeux vidéo. Pas trop de jeux de rôle. Je vais avoir une conversation avec Greg Stolzi dans 2 jours, par contre. Ça, c'est très excitant.
Ça, c'est excitant.
Et en JDR, je viens d'ouvrir la version bêta ou presque finie de la seconde édition de Seven Seas. Et je viens de commencer à lire ça, mais c'est à peu près tout. Hein. J'ai pas beaucoup de news JDR à part ça. En fait.
Eh bien, écoute, cette nouvelle édition de Seven Seas, je l'ai parcourue aussi, et elle a un énorme avantage pour moi, c'est les illustrations. Je sais pas si tu as fait gaffe aux illustrations vis-à-vis des derniers podcasts qu'on a fait.
Non, pas trop.
J'ai
trouvé les illustrations très sympas sur la. Enfin, sur celle que j'ai vue pendant qu'il y avait le Kickstarter. Quoi, mais...
En fait, tu as des illustrations de toutes les nations autour de la 7e mer, etc.
Ouais.
Et ce qui est sympa, c'est que tu as, genre, je ne sais pas si la parité est parfaitement respectée ou pas, mais les femmes ne sont jamais, jamais représentées à poil. Elles sont représentées dans leur costume traditionnel. Certaines sont puissantes, musclées. On a l'impression qu'elles pourraient assommer un bœuf. Ouais. D'autres sont des princesses.
Elles ont des vêtements normaux, quoi. Ouais, je suis en train de regarder. Là,
voilà, ouais, ouais, tu vois, elles ont des vêtements normaux qui conviennent bien. Elles sont pas mises en avant pour leur charme, sauf quand c'est le thème de l'illustration. Et encore dans ces cas-là, elles ne sont pas nues. Donc c'est plutôt pas mal. Ça m'a agréablement surpris vis-à-vis de tout ce dont on a discuté ces derniers temps.
Et apparemment, John Wick disait qu'il y avait un truc, évidemment, tout le monde s'est bien passé. Il a eu plein de bons feedbacks. Et qu'il est resté bloqué sur le fait qu'évidemment, il y a la minorité vocale qui a râlé, parce qu'apparemment, il y a une des nouvelles dans le bouquin qui a une scène un peu érotique, homo-érotique, quoi, un truc dans le genre, apparemment.
Ah, tu as d'ailleurs une magnifique illustration où deux hommes s'embrassent dans le bouquin.
Voilà, je crois que ça doit être ça, et apparemment, évidemment... Et... Mais ceci dit, moi, je trouve que c'est vachement bien, je suis super content qu'il ait fait ça, c'est super bien, quoi. Tant mieux qu'il y ait des gens qui gueulent, qui sont...
Voilà. Ouais, 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 non, mais voilà, c'est cool en tout cas, et ça permet de donner une perspective par rapport à ce dont on a discuté. Et comme on nous dit sur le chat, effectivement, c'est triste que ça surprenne dans le milieu du jeu de rôle.
Tiens, tiens, d'ailleurs, puisqu'on a tout le monde là, comment est-ce qu'on fait pour le chat, moi, que je puisse.
Alors, pour le chat, bah, c'est bien, parce que comme ça me permet de le redire.
Oui, très bien.
Quand nous enregistrons en direct, vers 20h, à peu près avec 2-3 minutes de retard, si je ne m'abuse. Peut-être un peu moins, vous avez le podcast qui est visible sur la page www.sendrones.fr/le-direct/, enfin le dernier n'est pas nécessaire, et sur cette page vous avez à la fois le flux YouTube qui vous permet de nous écouter en direct, alors la plupart du temps il n'y a pas d'image, de temps en temps on va balancer une ou deux illustrations, quelque chose, mais la plupart du temps il n'y a pas d'image, et en dessous vous avez un chat, il suffit de vous identifier pour pouvoir rejoindre ce chat. Pour l'instant, nous sommes très peu nombreux ce soir, mais c'est pas grave, hein. On est content de voir ceux qui sont présents, et il nous est arrivé d'être très nombreux, que ça parte dans tous les sens, et c'était très très sympa. Voilà, est-ce que tu trouves, Xavier ?
Ça y est, j'y suis, je vais dire bonjour à nos auditeurs. Salut les loulous. Formidable.
Formidable.
Bon, je vais pouvoir les lire, les auditeurs, comme ça ils font. Voilà, parce qu'on n'est pas nombreux, on va peut-être pouvoir un peu plus les...
J'allais me demander si j'avais plus de temps ou moins de temps, parce qu'en général, je regarde pas trop ce qui se passe pendant le chat pendant qu'on est en train de parler, quoi.
Bah ouais, c'est un tort qu'on a. Enfin, bon.
Non, pas nécessairement. Certains regardent et essayent de vous faire remonter les informations nécessaires.
On a des conversations tellement intenses qui demandent vraiment une attention de tout
le monde. C'est dans le Misdirected Mark podcast que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est un podcast américain, où ils ont un type dédié à la surveillance du chat, et de temps en temps, ils arrêtent de causer, et ils lui demandent alors qu'est-ce qui se passe sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui réagissent et tout. Enfin voilà, c'est sympa.
C'est du sérieux chez eux.
Ouais, nous on est un peu en mode bordel. Et
je
des fois,
t'avoue que. C'est une de mes inspirations pour avoir installé ce chat. Le deuxième podcast qui m'a inspiré, c'est le Happy Jacks RPG Podcast.
Celui où les gens pètent et rotent à l'antenne.
C'est ça, ouais, tout à fait. Ils boivent de la bière et commentent ce qu'ils boivent. Et moi, ça me plaît.
Par contre, ça m'intéresse. J'aime bien quand ils parlent de bière.
Mais moi, j'aime bien parce que ça me permet de suivre un groupe de joueurs très traditionnels américains qui ont repris le jeu de rôle après des années, quand DD4 est arrivé, et de voir comment ils évoluent. Et comment ils évoluent vers, en ce moment, leur grande découverte, c'est les jeux type Apocalypse World, etc. C'est Vampire, il est temps, et ce genre de choses. Et c'est vachement intéressant à écouter de ce point de vue-là. Mais, comme on en discutait avec Willem tout à l'heure, avant l'antenne, c'est un goût acquis. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont... ils mâchent pas leurs mots, ils sont pas toujours très subtils. Et moi, ça m'amuse bien. Mais cela dit, c'est une excellente transition que tu fais là, Xavier.
Mais excellente. Oui.
Parce que ça va nous permettre de nous recentrer. C'est toi qui amènes le sujet ce soir.
C'est moi qui amène le sujet, ouais.
Nous t'écoutons, cinglé.
Alors donc, un des derniers justement podcasts sur Misdirected Mark, les deux animateurs parlent de ce qu'ils appellent les couches de jeu. Et moi, je trouve que c'est une vision assez intéressante pour regarder une partie de jeu de rôle. On avait bien sûr le big model de la forge pour analyser la partie. Et là, je trouve que ça éclaire l'expérience jeu de rôle d'un autre point de vue et ça explique un certain nombre de choses. Et ça m'intéresse fortement. J'avais envie d'en discuter avec vous, les gars, quoi.
Est-ce que tu as de ton côté des petites news rôlistes à nous faire avant de nous présenter ce que c'est que ces couches de jeu ?
Alors oui, moi j'ai repris deux campagnes à Nantes, une campagne de Oltrey et une campagne de Mutant Year Zero. C'est des jeux très fortement émergents, c'est-à-dire que il y a pas vraiment de... Le maître de jeu prépare un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se construisent en jeu, et j'en attendais beaucoup. Et peut-être trop, je suis un petit peu déçu. J'étais très en froid avec les scénarios, en me disant, bon, la solution, c'est l'émergence totale. Et là, je joue complètement by the book à Mutant Year Zero en émergence totale en tant que maître de jeu. Mes joueurs s'amusent, mais moi, ça manque un petit peu de fil conducteur et de trucs comme ça, quoi. Donc il faut que j'ajuste, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai participé à la réunion de préparation des Utopiales.
Cool.
Donc le pôle jeu Ludinante, l'association Ludinante nous prépare encore un truc aux petits oignons, là. C'était très sympa. Il y a plein de super énergie positive et de gens qui ont envie de faire plein de trucs. Donc je pense qu'on va encore s'éclater cette année.
S'ils veulent qu'on vienne, on est là, hein.
Mais oui, mais enfin, je ne sais pas si eux, ils veulent qu'on vienne, mais moi, je veux que vous veniez. Donc,
de toute façon, on sera là.
Voilà. Et puis, ben voilà, un peu les...
Ok.
Les quoi.
Ok, super. Bah écoute, présente-nous un petit peu ton superbe thème du soir. Qu'est-ce que c'est donc que ces couches de jeu Parce que je crois en fait que... Parce que le terme de couche lui-même, c'est un petit peu difficile. Alors si Benoît était avec nous, peut-être qu'il nous aurait parlé de son fils, mais... trêve de blague de merde.
Layers en anglais, je sais pas comment...
Traduction, ouais, je pense.
Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure traduction que...
Bah, ça dépend, il faudrait que je comprenne ce dont on parle en fait. Est-ce que donc, c'est des niveaux? Des niveaux ou des...
Oui. Ouais, en fait, c'est des niveaux, on va dire, est-ce qu'on peut dire des niveaux d'immersion, Julien ?
Ou des d'immersion. Des niveaux
de tu vois, de ce sur quoi tu portes ton attention.
Alors, est-ce plus,
que
tu oui,
peux nous
tout
définir
à fait.
Un peu ce que tu veux
des
dire.
Des strates,
que,
ouais, bah voilà, pas, super.
Ah, des strates, ouais, ça c'est intéressant, ouais, des strates.
Bah voilà, Mister Nergul voilà. Sur le chat.
Ça vient
merci.
Du chat, merci Nergul. Et voilà.
Voilà.
C'est fort ce Nergul quand même.
Donc nos amis de. Du Misdirected Mark qui ne nous connaissent pas, hein, mais nous on les connaît comme tous les podcasts que tu écoutes, tu as l'impression d'être leur pote alors qu'ils ne te connaissent pas.
Je les connais pas en fait, je viens de noter, je viens de télécharger l'épisode dont tu parles.
Voilà. Et donc ils nous expliquent que eux ils ont émis ce. Alors ils font l'historique, je m'en souviens plus, de comment ils en sont arrivés à ces notions-là. Et ils expliquent que quand tu es en jeu, tu peux être dans différentes strates de conscience, si on peut dire, hein, si on parle New Age. Et ils en identifient 7. Donc, je vous les lance en vrac et après on rentre un peu dans le détail. Mmh. Pour eux, la couche de base, la couche la plus basse, tiens, ça me fait penser un peu au modèle ISO, tu sais, en informatique. Enfin, vous connaissez peut-être pas, mais les informaticiens s'y retrouveront. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Il y a plusieurs couches qu'on va pouvoir monter et descendre au fur et à mesure de ce qu'on fait en jeu. Donc, la couche de base.
C'est un peu comme dans Inception, en fait, dans Inception, là, avec. Le film de Christopher Nolan, dans les niveaux de rêve.
Peut-être, mais je ne l'ai
pardon.
Pas vu. Non, mais c'est j'ai plus rien, hein. je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc la première, celle qui est en bas, c'est la couche du personnage. C'est-à-dire que quand on est dans cette couche-là, on est concentré sur le point de vue de son personnage, jouer son personnage, incarner son personnage. C'est vraiment la couche qui correspond de manière très classique à ce qu'on entend quand on parle d'immersion. Quoi. La couche juste au-dessus, enfin la strate, pardon, on va essayer d'être fidèle à Nergule, la strate juste au-dessus, ce serait la strate de conscience du groupe, c'est-à-dire que le point de vue que l'on adopte, c'est pas forcément le point de vue uniquement de son personnage, mais le point de vue du groupe en général et de l'intérêt du groupe en général. La strate d'au-dessus, ils appellent ça la strate de jeu, hein, game, mais moi, je préfère sans doute la traduire par la strate mécanique. C'est-à-dire que quand on est dans cette strate-là, on réfléchit en termes de système de jeu, de système de résolution, de trucs comme ça.
Est-ce que c'est pas la strate des règles ?
C'est peut-être la strate des règles, ouais. Enfin,
je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr.
C'est vraiment technique, tu vois. C'est vraiment crunchy, quoi.
Ok, mais mécanique, c'est bien. La strate mécanique.
Mécanique, c'est pas mal. La strate d'au-dessus, c'est la strate de. Eux, ils appellent ça story. Encore une fois, moi, je traduis ça par histoire, mais l'histoire au sens de l'épisode de ce soir. Tu vois, le scénario.
La session de jeu ou...
Voilà, la session de jeu.
Ok.
L'histoire que tu es en train de vivre, en fait.
Voilà, l'histoire que tu es en train de vivre. La strate au-dessus, c'est la strate de campagne, c'est-à-dire l'histoire à long terme, dans sa perspective.
Ouais.
La strate d'au-dessus, c'est la strate personnelle, c'est-à-dire moi, ce que je ressens moi en tant qu'être humain à la table et pas en tant que projection dans le jeu ou dans mon avatar.
Et comment j'interagis avec les autres êtres humains autour de la table ?
Voilà. Et la dernière strate tout en haut, c'est ce qu'ils appellent la strate hors-jeu, c'est-à-dire à la limite la logistique, qui apporte qui va chercher les frites dans le four, tiens merde, il fait froid, où il est tard, il faut que je rentre, maman va gueuler, etc. Et donc ce qu'ils expliquent, c'est que au fur et à mesure d'une partie de jeu de rôle, les différents joueurs, en comprenant le maître du jeu, vont changer de strate en fonction de ce que nécessite la partie à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a un fil conducteur d'immersion, genre le premier niveau personnage, c'était plus immergé que ce, ou pas nécessairement ?
Moi c'est comme ça.
Je suis pas sûr que ça marche comme ça, en fait.
Moi, c'est comme ça que je lis un petit peu, tu vois.
Et c'est-à-dire comme ça qu'il le présente, oui.
Si t'es dans la strate du personnage, t'es immergé dans ton personnage. Si t'es dans la strate de mécanique, par exemple, t'es en train de bouger tes figurines, de compter tes cases, de te demander est-ce que la boule de feu à tant de dégâts va suffire, mais t'es immergé dans le jeu, tu vois. Si t'es immergé dans l'histoire, que tu te dis tiens, alors si je pose telle question au PNJ, ça va nous foutre dans la merde, mais ce serait trop cool. Tu vois, là, il y a une forme d'immersion, je pense, à chaque fois. Et si tu vas à l'extrême, si t'es immergé au niveau personnel ou hors-jeu, bah, t'es très très loin de l'immersion. C'est que, grosso modo, tu te fais chier à la table, quoi, ou que t'as d'autres préoccupations, par exemple.
Donc le niveau perso, là, le sixième niveau, c'est ça ?
Ouais.
Ce serait plutôt du genre, il faut que je texte ma copine, parce que je vais dire que je serai en retard, en fait. J'ai réalisé que...
Oui, voilà.
Des préoccupations qui sont pas du jeu ou... Ça
c'est
les
pas seulement ça
jeu.
À mon avis. Voilà, ouais, à mon avis, ça peut compter aussi dans tiens, machin, il fait une sale gueule. Si ça se trouve, il y a un problème. Peut-être qu'il faut que je m'en préoccupe, etc. C'est pas, à mon avis, ouais. C'est pas que du négatif et que du hors jeu. Il me semblait dans les strates qu'il y avait une strate de groupe. Tu en as parlé ou pas ?
Oui, c'est la deuxième strate.
C'est ça.
On peut peut-être les reprendre un peu. Voilà, si vous avez compris
je vais le répéter pour voir si j'ai bien capté. La première, c'est le personnage, l'interprétation de ton personnage. La deuxième, c'est le groupe. Ouais. Considérer le groupe de joueurs dans son ensemble et tout ce qu'on est en train de faire dans la partie, j'imagine.
Ouais. Bien sûr.
La troisième, c'est l'histoire, mais c'est-à-dire la session de jeu.
Non, le troisième, c'est la mécanique.
Ah, pardon, la mécanique, ok. Et donc ensuite, c'est marrant, ils mettent la session de jeu. C'est marrant, instinctivement, je suis parti dans l'autre sens. Donc la mécanique, ensuite la session de jeu, ensuite la campagne. Ensuite, perso, donc le toi hors jeu, mais.
Voilà. Mais quand même présent à la table.
Mais présent à la table, donc toutes les considérations qu'il y a autour du jeu, mais pas forcément dans le jeu.
Enfin, surtout de ce que toi tu ressens, quoi. Tu vois, t'es pas bien.
Ah oui, ce serait aussi, tiens, ce qui se passe dans la partie, ça me rappelle quelque chose et donc ça éveille telle émotion chez moi, etc.
Voilà, ça. Ou ça me met mal à l'aise.
Quand tu te retrouves reprojeté dans ta propre identité, finalement, mais en restant dans le jeu. D'accord.
Ouais, okay. Je pense que c'est ça.
C'est un modèle, et puis le septième, c'est tout ce qui est complètement hors-jeu.
Tout ce qui est hors-jeu, mais qui est afférent à ce que tu vis là, quoi. C'est-à-dire de l'organisation, il faut monter le chauffage, tu vois.
D'accord. Mais ouais, effectivement, c'est un modèle intéressant. Hein. On doit changer de presque genre toutes les 30 secondes, quoi.
Alors, et ben plus ou moins, et c'est ça le cœur de l'analyse et qui est intéressante. C'est-à-dire qu'ils disent que déjà au cours de la partie, on va passer d'une couche à l'autre, que selon que tu es joueur ou maître de jeu, tu vas pas te situer dans les mêmes couches en général, même si tu peux aller déborder un petit peu tes couches caractéristiques. Et surtout, ils expliquent que ce qui est difficile pour les gens, c'est de changer de couche. C'est-à-dire que changer de couche, changer de point de vue, ça te demande un effort. Et il y a des gens qui aiment pas faire ce va-et-vient ou qui aiment pas trop d'amplitude sur ce va-et-vient Voilà, où il y a
Après, il y a certaines personnes qui doivent avoir des affinités avec certaines couches.
Exactement.
Et c'est là où peut-être, bon, faut pas croiser les trucs à la Ghostbusters, quoi,
Ouais,
mais
faut pas croiser les flux, ouais.
voilà, pas croiser les flux, mais les trois grands modèles narrativistes, simulationnistes et c'est quoi déjà?
Et ludiste.
Et ludiste, oui, pardon.
Moi, l'intérêt, je trouve, à ce schéma en strate-là, c'est qu'il permet d'analyser une partie de jeu de rôle, justement, en se détachant complètement de cette structure forgienne qui est très intéressante, mais qui est devenue un peu omniprésente ces dernières années, je trouve, quoi.
Mais moi, ça me paraît intéressant aussi parce qu'en plus, il y a cette question de strat, c'est une question de personnel. Enfin, à chacun des joueurs a la sienne, et après, ça crée quelque chose d'encore plus compliqué si tu considères le groupe dans son ensemble. Mais du
Donc,
coup, c'est un peu plus. Ça a plus de détails potentiellement, quoi, dans
ouais.
l'analyse.
Et effectivement, ça renvoie, ou en tout cas, ça fait penser à la théorie du Maelstrom de Romain Brillant, bien sûr.
Tiens donc, comment ça t'y fait penser? Parce que là, je vois pas le lien.
Parce que
Je peux me rappeler aussi
chacun à
parce
la
que je vois
table,
pas.
chacun à la table va se trouver à sans doute à des couches différentes, à un même
Ah,
moment.
d'accord, ok. De ce point de
C'est
vue.
quoi cette théorie du Maelstrom? Pardon, je ne connais pas. Excusez-moi. Excusez mon ignorance.
Donc en fait, Romaric Brillant,
Pour
oui.
rappeler à tout le monde, au cas où les
Voilà, voilà,
auditeurs,
voilà.
bien
Donc
sûr.
Romaric Brillant a sorti un bouquin sur le Maelstrom où il explique que en jeu de rôle, il n'y a pas une fiction, mais il y a des fictions en cours de partie qui s'harmonisent pour voilà, avec qui s'harmonisent au cours de la conversation pour donner le sentiment à tous d'avoir vécu la même chose, alors qu'en fait chacun construit et perçoit sa partie de jeu de rôle à lui, quoi. Et on va se mettre d'accord et l'harmoniser au fur et à mesure de la discussion. Mais c'est pas un truc monolithique, quoi, tu vois.
D'accord.
Je résume très fortement, hein, parce que c'est. Mais du coup, effectivement, chaque personne, chaque joueur à la table va pouvoir se trouver dans des couches différentes du jeu, et donc avec des points de vue un peu différents sur le jeu.
Ben c'est vachement intéressant cet aspect-là, parce que ça explique un certain nombre de dysfonctionnements de parties, justement.
Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, si vous voulez, on peut les reprendre une par une et
Je suis en train de
un
faire
petit peu
une
un schéma
une
à
infographie,
partager.
un schéma que je vais partager avec notre chat, histoire qu'il le voie. Donc, on a dit que c'était des strates. Très
Les
bien.
strates. Voilà. Donc, la première, le personnage, si vous voulez, c'est ce qu'on entend de manière traditionnelle lorsqu'on parle d'immersion. C'est-à-dire, je ne me concentre que de mon perso, je défends son. Comment il dit, Fred déjà
Ah non, ça c'est
Bien.
encore autre chose, mais
Tu crois pas que c'est là que ça se situe? Le fait
non,
de.
ça peut
Voilà.
être. Moi,
Ah,
moi
le fait de
je l'entends
défendre les
comme.
intérêts de son personnage, c'est le fameux advocacy de. Alors j'ai oublié le nom de évidemment de la personne qui l'introduit, l'auteur de Zombie Cinéma. J'ai lu un petit peu sur le sujet. Je suis pas sûr que ce soit un élément nécessairement constitutif de l'histoire. Mais disons que quand tu es dans la strate du personnage, tu es censé penser, prendre les décisions, te concentrer sur le personnage, donc normalement être dans cette posture-là. Mais je ne pense pas que ce soit indispensable. Il y a des petites nuances en fait, mais tout à fait. Voilà. J'ai envoyé un schéma sur le chat. Vous avez un truc
Voilà.
extrêmement sommaire, mais d'ailleurs, je me suis planté sur la dernière, c'est hors-jeu que je cherchais. Donc, comme ça, on les aura
D'ailleurs,
sous les yeux.
surtout que ta petite flèche, on peut la mettre dans les deux sens, mon
Ah,
bon
tu penses
Julien.
qu'on peut la mettre dans les deux sens?
Mais oui, parce qu'en fait, on va passer son temps à monter, à descendre cette
Ah, oui,
strate.
d'accord, ok. Et oui, et ce qui est intéressant, c'est que tu peux
Pardon.
caractériser le mouvement de l'un à l'autre, en fait. C'est-à-dire
Et puis
que.
ça doit pas être, c'est pas linéaire non plus, en fait, aussi, hein.
Non,
Non,
c'est
non,
pas
non, non,
linéaire, non, pas du tout, mais tu peux
non.
sauter
Et
des
ils
étapes, à mon avis.
voilà, et ils expliquent que ces strates, elles sont perméables, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, t'es un peu entre l'une et l'autre. Tu vois, c'est. Enfin, je veux dire, tu.
Donc pour revenir à celle du personnage, moi
Donc,
la manière dont je
voilà.
l'entends, ce que tu es en
Donc.
train de raconter, c'est aussi par exemple quand tu es en train d'interpréter une scène et tu es vraiment à fond dedans, tu es en train
Voilà.
d'être ton personnage, ça c'est
Voilà.
là où ça dont on parle par exemple.
C'est la définition classique de l'immersion, quoi. L'immersion dans le personnage. Voilà. La strate de dessus, c'est que tu envisages l'intérêt de la construction et de la suite de la partie comme quelque chose au niveau du groupe de personnages. Donc là, tu ne défends pas forcément l'intérêt de ton personnage à toi, mais tu en viens à considérer l'intérêt du groupe dans sa globalité.
Ce qui n'est pas incompatible, en fait, avec le fait de défendre l'intérêt de ton personnage. Parce que quand tu dis que défendre l'intérêt de ton personnage ou plaider pour ton personnage, ça ne veut pas dire... Enfin, plaider pour ton personnage, ça n'est pas nécessairement défendre ses intérêts immédiats, mécaniques, etc. C'est, si j'ai bien compris la notion que j'ai lue, en remontant un peu aux sources, c'est faire en sorte que ton personnage apparaisse comme un protagoniste intéressant et un protagoniste, comment dire, riche. L'exemple donné par l'auteur, c'est l'exemple d'un personnage alcoolique. Et il prend l'exemple, il se pose la question sur Fate. Quand, dans Fate, le maître du jeu va venir te proposer un point de destin pour jouer l'alcoolisme de ton personnage, le fait de accepter ce point de destin, quelque part, ça te met en difficulté. Donc, tu aurais tendance à penser que tu défends pas les intérêts de ton personnage. Mmh. En fait, si. En fait, si, parce que ça te permet de montrer à l'écran, si j'ose dire, cet aspect du personnage, sa richesse et ce qui lui appartient dans sa nature, si tu veux. Oh, c'est compliqué la phrase que je viens de faire. Enfin, voilà, ça permet de montrer sa nature. Et tout ce qui permet de montrer sa nature fait partie de la défense de ses intérêts. De ses intérêts en tant que protagoniste et pas de ses intérêts en tant que...
C'est bon à la santé de picoler, quoi.
Ouais, voilà, quoi. Tu vois, c'est pas le principe, voilà.
C'est pas forcément opposé avec la gestion de strats. Par contre, quand je regarde les strats, quand je disais ça change toutes les 30 secondes, c'est même pas ça. Tu peux passer tout. Tu peux être en train d'interpréter ton personnage pendant quelques secondes, et puis après, tu tournes la tête et tu dis ah oui, mais alors qu'est-ce que tu faisais toi d'autre dans le groupe ? Ah, mais je rappelle-moi comment on fait le jet pour machin, et ah tiens, qui c'est qui veut m'en venir, quoi. Et t'as déjà.
Ouais, mais tu vois, typiquement, quand les joueurs se réunissent pour monter un plan, etc., dire alors comment on attaque la citadelle de Zlorglub, le maudit, là, ils sont généralement plus trop dans la strat du personnage, ils basculent dans la strat du groupe.
Oui. Sauf si ils font ça en roleplay complet. Ouais. Sauf s'ils font ça en roleplay, entre guillemets, total, bah, s'ils incarnent complètement.
Voilà. Ouais, mais là, ils sont à la frontière des deux mondes, sans doute.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Ils seront entre le groupe, la partie et la mécanique, quoi.
Tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas tellement les strates telles qu'elles sont définies, parce que finalement, c'est discutable, c'est le schéma tel que je l'ai fait est trompeur, c'est-à-dire que ces strates, elles se chevauchent toutes. Il faudrait peut-être faire un cercle, si tu veux, dans lequel tu peux appartenir à plusieurs strates ou un diagramme de Venn ou un truc comme ça, quoi. Mais... ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu passes d'une strate à l'autre, parce que cette difficulté de passer d'une strate à l'autre, elle explique le désamour d'un certain nombre de joueurs pour des jeux qui te demandent de passer de l'une à l'autre, ou qui t'investissent dans des histoires, enfin dans des choses qui sont pas comment dire, qui sont pas dans la strate dans laquelle tu as l'habitude de jouer. Quand tu as l'habitude de jouer,
c'est une question de jeu et de système, ou de joueur et de la manière dont les gens jouent, ou un peu des deux?
Alors, je pense que c'est les deux, mais je pense que certains jeux l'avantagent beaucoup. Je vais te donner un exemple. Ouais. On est dans un partie de Donjons et Dragons classique. On est en train d'explorer un donjon. On s'attend à ce que tu joues en mode groupe et que tu passes du mode groupe au mode mécanique, enfin la strat mécanique très très souvent, parce que le but du jeu est de vaincre l'adversité en face de toi en faisant appel à tous les membres de ton groupe, tu vois. Ouais. Alors que quand tu as un personnage qui, enfin un joueur pardon, qui va se mettre en mode personnage et qui, alors je sais pas moi, on va dire c'est le voleur qui, sous prétexte qu'il est voleur, va se mettre à piller les sacs des membres du groupe, ou qui va aller piquer un trésor qui serait nécessaire pour réussir à aller au bout du donjon, parce que c'est dans son personnage et lui il pense uniquement au personnage et pas au groupe. Du coup, dans ce jeu là son attitude ne fonctionne pas pour que la partie fonctionne correctement vis-à-vis du postulat de départ, j'oserais peut-être dire du contrat social, qui est de jouer tous ensemble pour vaincre le donjon.
Voilà, ou...
on peut prendre
pas,
des trucs complètement à l'inverse aussi.
Voilà, ou le barde qui se met à délirer que lui, les trous sombres, ça le déprime, il en a marre d'être là, et qu'il bout dans son coin, enfin... Parce que le joueur voudrait une interaction sociale et un dilemme moral avec les autres à la table, alors que les autres, eux, ils veulent juste bâcher du monstre au fond du donjon, quoi.
Voilà, ou ça va être aussi le cas de le joueur qui choisit de mettre de côté les difficultés relationnelles de son personnage pour le bien du groupe. Et dans certains cas, c'est pas un problème parce qu'on s'attend à ce que tu joues en mode groupe. Quand tu es en train de jouer à Vampire avec un certain niveau de joueur contre joueur, ça marche pas, ça, parce que tu affaiblis ton personnage et justement, t'es pas en train de plaider pour lui. Tu l'affaiblis. Voilà. Ouais. Et donc, il est plus crédible. Et donc, il est plus intéressant. Tu vois ? Donc ça, c'est des trucs intéressants. Et notamment, je finis juste là-dessus, notamment le fait de passer d'un niveau à l'autre, ça rappelle aussi la notion que le même podcast, Misdirected Mark Podcast, a mis en place. Hop, j'ai changé de fenêtre. Attendez, laquelle je cherchais ? Voilà, c'était celle-là, parce que je projette en même temps sur... comment ça s'appelle ? Sur la vidéo, le schéma. Je vais d'ailleurs l'enlever, parce que voilà, tout le monde l'a vu. Ça m'évitera de montrer des trucs perso par inadvertance. Qu'est-ce que je disais ? Ouais. C'est la notion de latence. D'accord ? La notion de latence qui est le fait que passer d'une strate à l'autre prend plus ou moins de temps en fonction de ton habitude et du système, enfin du jeu auquel tu es en train de jouer. La latence classique, c'est le passage vers la strate mécanique, en fait. Quand tu maîtrises bien les règles, le passage est super rapide et super facile. Quand tu maîtrises pas les règles, ça peut être problématique. Voilà.
Tu vas fouiller dans le bouquin, tu perds du temps, tu relis les passages.
Et donc, à la limite, tu fais un passage par... Parce que,
et d'ailleurs, du coup, dans ce cas-là...
un truc différent.
Si. Et c'est le genre d'exemple où si t'es le jeu... Et tu passes à la strat mécanique, tu es en train de regarder des règles dans ton bouquin, ça m'arrive jamais, hein, bien sûr. Alors tout dans ce cas-là, tous les autres joueurs ont une chance à passer plutôt dans le mode perso ou mode hors-jeu, qui c'est qui veut une bière, machin.
Voilà.
Tout à fait.
Est-ce que j'ai eu des emails sur mon portable voilà.
Et effectivement, dans ce cas-là, tu as raison, c'est le pas d'immersion, c'est quoi l'autre côté, du truc c'est...
Bon, je sais pas, la désimmersion.
La contre-immersion.
La perte d'immersion.
La perte d'immersion, la réalité.
Sauf que, si on en croit... Attends, si on en croit Thomas Munier, et le podcast qu'on a fait avec lui sur l'immersion, il y a plusieurs types d'immersion. Et ça justifie ce que disait Globo aussi dans d'autres podcasts, qu'il peut y avoir des immersions, à mon avis, à quasiment tous les niveaux, dans toutes les strates, en fait. C'est pas le même type d'immersion, c'est tout.
Oui, parce que ça, c'est des styles de jeu aussi. Hein. Il y a des mecs qui jouent en mécanique pendant toute la partie, ils adorent ça, quoi.
Ouais. Ou le mec qui veut draguer une nana à la table, il joue en personnel pendant toute la partie. Lui.
Non, il joue en hors-jeu pendant toute la partie.
C'est du hors-jeu ou c'est du personnel ?
C'est du hors-jeu, c'est du hors-jeu, parce qu'il n'est pas en train de se demander comment le jeu affecte son être intime.
Mais s'il essaye de faire un truc à moitié, il faut qu'il prétende qu'il est quand même en train de jouer.
Voilà, donc il fait croire aux autres qu'il est en mode personnage, groupe ou histoire, et en fait, il est en train de... Enfin bon, bref.
Ouais.
Donc tout ça pour dire que sur.
C'est très spécial. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui font ça à ce niveau-là. Hein. C'est quand même.
Donc ces strates, dans le jeu de rôle traditionnel, en fait, la strate 1, 2, 3, c'est-à-dire personnage, groupe, mécanisme, c'est là où va se situer la plupart du temps les joueurs. Et les couches 3, 4, 5, c'est-à-dire mécanique, histoire et campagne, vont être les couches un peu réservées. Traditionnellement, au rôle du maître du jeu.
Après, ça dépend. Je pense qu'il y a aussi des moments qui sont privilégiés. Par exemple, je pense que une couche session de jeu, histoire ou campagne, souvent en début de session ou en fin de session, quand tu commences à faire le point, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on voulait faire, là, t'as un peu plus de chance que le groupe dans son ensemble soit dans ces strates-là, quoi.
Oui, enfin, rien n'interdit, et sans doute que les différents joueurs vont se balader dans les autres strates, tu vois, c'est pas étanche, mais quand je suis en posture de maître du jeu, je me situe beaucoup sur les strates histoire mécanisme en tant que maître du jeu. Je monte des fois à ma campagne quand je veux un peu de, mais je descends rarement. Si je descends au niveau personnage, si j'incarne un PNJ, mais ça dure pas super longtemps, tu vois.
Ouais, par contre, moi j'ai plutôt tendance à faire ça parce que c'est l'un des côtés que je pense. Où je suis pas trop mal, où je pense que c'est un de mes côtés points forts en tant que MJ, c'est l'interprétation des personnages. Après, bon, ça se discute. Voilà. Hein, par contre, le côté mécanique, je suis nul. Hein, c'est pour ça que j'aime bien les systèmes très simples.
Et donc c'est rigolo parce que quand on analyse avec ce schéma-là des jeux à autorité partagée, un peu plus indie, etc., on s'aperçoit que, eh bien, on va plus projeter les joueurs, vu qu'on va leur donner de l'autorité, on va plus les remonter vers le haut de la des strates, et ils vont plus régulièrement qu'en jeu traditionnel se retrouver dans des strates d'histoire, voire de campagne.
Ouais, mais en même temps, souvent, il y a pas mal de ces jeux qui ont à peine de l'histoire et même pas de campagne.
Oui, enfin,
Ils ont quelque chose d'autre, par contre, qui remplace, je pense, souvent, mais je sais pas ce que c'est.
pas d'histoire, ça me paraît compliqué. Pas de campagne, oui, sans doute, oui.
Pas d'histoire, je suis pas d'accord, parce que l'histoire, ça.
Microscope, c'est pas trop d'histoire, hein, je crois. Enfin, si, ça en a, mais c'est pas vraiment. Enfin, ça dépend, en fait, comment tu
Alors,
joues.
si tu prends histoire comme terme, ouais, je suis d'accord. Par contre, si tu prends
Mais ça dépend, ouais.
partie comme terme, microscope, t'as une partie. Tu
Oui, tout
t'intéresses
ça, t'as une
justement
partie. Oui, tout à
à la
fait.
partie. Tu vois?
Mais c'est là où, effectivement, je pense que Xavier t'hésitait à traduire story par histoire, et je pense que story, c'est même pas exactement.
Bah, c'est les deux,
Enfin,
à
ça
mon avis.
correspond pas forcément à tout, quoi. Donc,
Non, c'est clair. D'ailleurs, on a
et
des
le
questions,
particulier
hein?
de la session, je
On a des questions sur le chat. Je vais faire le rôle
Ouais.
de celui qui les renvoie. Alors, on nous disait au départ, sur certains jeux tradis, le MJ gère en mode partie et s'immerge dans cette strate. Donc ça, c'est à peu près ce que tu disais, Xavier. Et du coup, on nous demande, faut-il qu'il redescende ou que les joueurs le rejoignent pour qu'ils jouent ensemble? C'est une bonne
Mais
question,
tu
ça.
vois, c'est ce que je disais au début. Moi, je pense que dans la partie, c'est l'effet Maelstrom, c'est-à-dire que c'est pas dit que tout le monde soit en harmonie au même moment à chacune des mêmes strates, tu
Ah bah
vois.
absolument, absolument. Mais ça peut poser problème ou ne pas poser problème. Peut-être
Bien
que dans
sûr.
le jeu tradit, justement, ça ne pose pas de problème d'avoir cette désynchronisation parce que chacun a un rôle bien défini. Ton rôle en tant que
Ouais.
joueur, c'est de faire apparaître ton perso comme étant un personnage intéressant, donc de défendre ses intérêts, premièrement. Deuxièmement, et parfois c'est celui-là qui prend le dessus, de jouer au sein du groupe pour affronter le scénario du maître du jeu. De prendre en compte les éléments mécaniques parce que tu es censé les connaître, et de placer tes interactions à l'intérieur de l'histoire, mais à la limite, l'histoire et la partie, c'est pas toi qui gères. La
Mais
personne
oui.
qui gère, c'est le MJ.
Voilà, ça
Qui
c'est
a
dans le
qui,
dispositif
ouais.
traditionnel.
D'ailleurs, quand il gère des PNJ, pour moi, je suis pas du tout sûr qu'on est dans la strate de personnage. On est dans la strate de personnage si on choisit de jouer un PNJ de façon à défendre ses intérêts, mais dans ce cas, on quitte un peu son rôle de MJ pour se retrouver dans le cas du PJ de MJ, quoi. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes. Alors que si on gère son PNJ comme un élément qui nous permette de donner des informations, de faire avancer l'histoire, d'avoir des obstacles intéressants, de créer des rebondissements, etc., là, on est pile dans la strate histoire.
D'accord.
Donc, tu vois, c'est pour moi, dans ces jeux-là, il n'y a pas tellement de soucis. Alors peut-être qu'il y a d'autres jeux qui te permettent justement, qui répartissent les rôles différemment. On prend les jeux avec, par exemple, Nergul parlait du story game, où on va créer une histoire qui pourrait éventuellement devenir une campagne, comme Lady Blackbird, Polaris, des trucs comme ça. Enfin, des jeux comme ça, pardon. Effectivement, là, les rôles sont répartis complètement différemment. Parce que, déjà, au sein du jeu, tes responsabilités ne sont pas les mêmes au sein d'une
Oui.
partie, je veux dire. Elles varient beaucoup.
Question quand même juste sur l'épisode du podcast dont on parle où il y a ce modèle. Au final, l'objet de l'épisode était de détailler ce modèle, en discuter comme on est en train de le faire, ou est-ce qu'il y avait une finalité qui était un peu différente, une conclusion,
Présenter ce
ou est-ce
modèle
qu'ils
qu'ils avaient
analysaient
imaginé.
quelque chose comment, enfin, en fait. Et
C'était
surtout
les conséquences que ça a enfin voilà, comment ce modèle-là, il explique certaines choses à la table. Par
D'accord,
exemple,
comme. Ouais.
moi quand la première fois que j'ai joué à des jeux à autorité partagée fortement, hein, je pense notamment, mon premier exemple, c'était ma première expérience, c'était Monostatos, avec l'auteur du jeu d'ailleurs, Fabien Hildwein, que je salue bien bas. Et j'avais trouvé l'expérience très intéressante et très enrichissante pour ma pratique de jeu de rôle, mais j'avais été très dérouté par le fait d'être obligé de switcher en permanence de mon état d'esprit maître de jeu à mon état d'esprit de joueur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis joueur et je me mets en état d'esprit de joueur, et il y a des moments où je suis responsable de la narration dans la scène, et donc je me passe en état d'esprit maître de jeu. Et moi, j'aime bien être maître de jeu, j'aime bien être joueur, mais passer trop rapidement ou trop régulièrement de l'un à l'autre, ça m'avait agacé, quoi. Mmh. Et donc, ce modèle de strat, il me permet de mettre des mots ou une compréhension sur ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude, en joueur traditionnel, quand je suis dans mon personnage, je suis au niveau perso, groupe, mécanisme. Quand je suis maître de jeu, je suis au niveau mécanisme, histoire, campagne. Et basculer de l'un à l'autre, ça me demande un effort qui ne m'est pas naturel, peut-être par manque de pratique, hein, qui m'avait dérangé et qui avait cassé mon immersion.
Après, il y a peut-être des questions de préférence, hein, pas forcément de pratique.
Enfin, mais tu vois, c'est ce que je te dis. Individuellement, j'aimais bien l'un, j'aimais bien l'autre. C'est le mélange des deux qui me posait problème. C'est ce grand écart que j'avais l'impression de faire en permanence entre ce qu'on attendait de moi et et voilà, quoi.
D'accord.
Ouais, mais ce qui est marrant, okay. c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi.
C'est ce qu'ils disent dans le podcast. Ouais. Ils disent ce qui est difficile, c'est de changer. Enfin, ce qui demande un effort, c'est de changer de strate, et ça te demande d'autant plus d'effort que tu n'es pas à l'aise dans cette strate ou que tu n'as pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Mais quand tu finis par acquérir cette souplesse, cette habitude, etc., alors au fil du temps, ça te demande de moins en moins d'effort que de changer ton point de vue, et donc ça devient de moins en moins pénible pour toi.
Et je me demande si une évolution possible en tant que joueur, et là bah, je rejoins les conseils d'Eugénie en fait, ou du moins ses observations, ce ne serait pas de prendre bien plus en compte dans ton jeu les autres strates que la strate de personnage. Par exemple, de ne pas oublier de faire attention à la strate personnelle pour vérifier comment les propositions que tu fais en tant que joueur influe et impacte les autres joueurs. De même, le fait de penser, quand tu es en personnage, à ce qui se passe dans la strate histoire ou partie, ça peut te permettre de faire des choix qui vont rendre l'histoire plus intéressante. La difficulté, c'est vraiment de savoir, est-ce que quand tu fais ça, tu quittes ton rôle de défense de ton personnage, et on en revient un petit peu aux postures développées par... alors c'est Ciceron Edwards, je crois, qui parle des différentes postures de jeu dans sa théorie, ensuite de sa théorie du LNS. Posture d'auteur, posture de joueur, posture de marionnettiste, posture de metteur en scène, etc. Et à mon avis, il y a un petit rapport avec ça.
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, quand on ramène ça à ce que dit Eugénie, on comprend que si tu es en strate de personnage, alors tu vas avoir tendance à défendre bec et ongle ton point de vue et à ne pas vouloir concéder. Par contre, si tu arrives à remonter au niveau du groupe, voire de l'histoire ou de la campagne, alors ça devient moins dur de concéder, parce que ça devient plus facile d'accepter que ton personnage perde parce que tu vois la perspective intéressante pour l'histoire ou pour le groupe.
Oui, alors après, le fait de faire perdre ton personnage n'est pas nécessairement antinomique de défendre ses intérêts, même si la façon dont on le dit donne l'impression. Le fait de faire perdre ton personnage peut permettre de faire apparaître des côtés de sa personnalité hyper intéressants qui vont renforcer renforcer sa position de personnage principal d'une histoire, si tu veux.
Oui, parce que certaines approches.
Vas-y, évidemment.
On est à la limite de la couche histoire. Hein. Ouais, vas-y, évidemment.
C'est ça que j'allais dire, c'est que je pense que ma première idée, c'était, j'allais dire, ouais, faut avoir une certaine maturité, ce qui est peut-être un peu condescendant, mais en fait, c'est que il faut avoir un certain recul et du coup regarder la couche histoire pour pouvoir dire, ah, mais en fait, ça va être vachement plus intéressant pour l'histoire que je mette un côté négatif à mon personnage, enfin en négatif entre guillemets, en challenge, quoi.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, notamment les joueurs qui s'intéressent à l'intrigue, qui s'intéressent à la résolution du scénario, vont nécessairement penser à la couche partie ou histoire, et même à la couche campagne, c'est-à-dire qu'ils vont poser des jalons à long terme vis-à-vis de leur personnage, mais d'un point de vue stratégique vis-à-vis de l'évolution telle qu'il la prévoit. Et de ce point de vue-là, ils sont obligés de prendre en compte tout ça.
Mmh. Ouais. Bah, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de regarder la partie et le fonctionnement de la partie de ce point de vue, de ce modèle. Et à la fois, je vois pas trop le bénéfice quelque part.
Eh ben, parce que tu vas pouvoir, par exemple, quand tu es maître de jeu ou si tu es auteur de jeu, te dire, tiens, bah, ce soir, dans ma séance, je vais essayer de faire avancer la trame de la campagne ou la trame de l'histoire, ou ce soir, je vais leur proposer un challenge tactique, donc je vais plutôt focaliser sur ma couche mécanique. Tiens, ce soir, je vais balancer les spots sur tel personnage parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas. Et donc, dans ta préparation de partie ou dans les règles que tu crées dans ton jeu, tu vas pouvoir te dire, voilà, l'expérience de jeu que je veux proposer, est-ce que je vais faire un focus sur une de ces couches, est-ce que je
Ça,
vais
c'est
essayer de.
intéressant. Et c'est intéressant parce que c'est un côté de préparation de partie qui te permet de préparer une expérience de jeu sans préparer des rails d'une histoire ou une campagne.
Absolument.
Aussi.
Alors moi, j'y vois pas cet intérêt-là, moi. Moi, j'y vois pas cet
Ah,
intérêt-là. Moi,
vas-y.
j'y vois l'intérêt de garder en tête l'existence de ces strates dans ce que tu es en train de faire. À savoir, et en plus, à partir de là, comprendre pourquoi, dans certains cas, tes parties fonctionnent mal. Exemple, on maîtrise pas assez bien le système. Dès qu'on passe par la couche mécanique, ça merde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois pour que ça marche mieux? Bah, il faut que j'apprenne
Voilà.
les règles mieux.
Oui.
J'ai du mal, quand je suis en train de jouer mes PNJ, à garder en tête l'évolution globale de ma campagne. Ce qui veut dire que si je ne le garde pas en tête, si je ne prends pas de notes ou que je n'utilise pas un moyen ou un autre de garder ça en tête, je risque de créer des incohérences dans ma campagne, notamment des PNJ qui ne se comportent pas de la même manière. Si, alors là, c'était du point de vue du maître du jeu, mais en tant que joueur, ça peut être la même chose. Je suis en train, dans ma partie, parce que mon personnage le sent, d'insulter un personnage alors qu'il n'y a aucune raison que je le fasse du point de vue global. C'est-à-dire que je me laisse emporter par la colère du moment parce que je suis immergé dans le personnage et parce que j'oublie que mon personnage a des raisons profondes d'intérêt de ne pas se laisser emporter par la colère. Sauf que bah, quand je suis vraiment dans le personnage, ça, j'y pense pas forcément parce que je suis dans l'instant. Alors que nous, humain, on ne vit pas que dans l'instant. On essaye quand même, enfin, je ne sais pas pour vous, mais on essaye quand même, avant de s'énerver et de péter la gueule à quelqu'un, d'imaginer les conséquences que ça pourrait avoir, quoi. Enfin, je sais
Oui.
pas, hein, je ne sais pas, peut-être que.
Sauf si tu as certaines pathologies
C'est encore une
psychologiques.
autre histoire, là.
Non, enfin voilà, moi je et puis je trouve que ça, voilà, ça éclaire la compréhension du jeu autrement. Et donc, ils expliquent aussi que il y a des fois des gens qui sont désimmergés peut-être un peu brutalement parce qu'on les oblige à se projeter dans une strate qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'avaient pas prévue. Et du coup, ça les fait chier, et du coup, paf, et ben, ils vont vers une strate qui est complètement autre, qui va être personnelle ou hors jeu, parce que, voilà.
Bah, les fans
Alors, pour
de.
rebondir sur ce que tu disais,
Vas-y,
Julien,
Willem.
pardon.
Vas-y, je t'en prie.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Julien, je ne sais pas s'il parlait de ça dans le podcast, mais ça peut être une conversation pour nous maintenant, hein. C'est très intéressant de considérer ça en termes de préparation de partie, et de considérer ça pendant la partie. Par contre, en même temps, moi, je trouve souvent. En tant que MJ, mais même en tant que joueur, hein, ceci dit, quand tu es en plein dans la partie, tu n'es pas forcément en train d'analyser la manière dont tu es, ou tes strats, ou là où tu en es. Est-ce qu'il pourrait y avoir des moyens efficaces ou intéressants de préparer ça, ou de se le rappeler, ou des penses bêtes, ou un moyen de fonctionner, de se rappeler de ça pendant la partie, ou à des moments où ce soit bénéfique ou utile, quoi.
Bah, tu sais que je suis en train de me dire, en tant que MJ, par exemple, je prendrais bien ce schéma en annotant à côté des petits mots-clés ou des petites informations. Par exemple, je suis en train de maîtriser Apocalypse World. Dans ma partie campagne, je vais me mettre mes fronts. Dans ma partie ou histoire, je vais peut-être mettre les fronts sur lesquels je vais avancer et
Ou les
rajouter deux,
bancs.
trois trucs. Et le fait de réfléchir à chaque fois à ces strates va me permettre de poser des éléments et peut-être de structurer une partie et
Une
d'avoir un
préparation de
pense-bête
partie.
devant moi, quoi.
Alors, par exemple, pour toi, d'un point de vue pratique, tu utilises quoi? Ton ordinateur, des post-it, des notes? Qu'est-ce que
Alors
tu utilises pour?
moi j'utilise une tablette, j'utilise parfois quelques notes manuscrites et j'ai tendance à maintenant utiliser beaucoup beaucoup des notes manuscrites sur tablette parce que j'ai la chance
D'accord.
d'avoir une tablette qui permet de le gérer.
Ah ouais.
Voilà
Moi,
mon truc.
j'ai l'année dernière, quand je faisais ma campagne de non-armise, en jeu, j'étais pas très bon. Justement, c'est un truc sur lequel je pense que je pourrais m'améliorer, de rebondir pendant les actions de jeu. Mais j'ai plein de notes sur Evernote. En fait, j'écris mes notes de partie et de préparation de partie sur Evernote. sur mon
ordinateur. Ça marche, ouais, Evernote, ça marche aussi très très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Après, chacun
non,
ses
méthodes. Non, c'est juste pour parler de... Non, mais c'est intéressant de regarder comment tu le fais de manière pratique.
J'oserais dire chacun ses gestes. Bref.
Mais il faudra qu'on en reparle aussi.
Ouais, on en reparlera.
Ça pourrait faire le thème d'un épisode.
Ce sera le thème d'un épisode, oui.
Par exemple, j'ai un cahier et j'essaie de noter des trucs, tu vois, avec en début de cahier ce qui se passe dans la séance, en fin de cahier ce qui se passe pour mes PNJ importants. Okay. Mais je m'aperçois que je prends jamais assez de notes en cours de partie, quoi.
Bah, c'est pas évident, hein.
Parce que je suis vraiment concentré sur renvoyer la balle à mes joueurs, prévoir ce qui se passe après, etc. Et surtout, j'ai cette conscience que c'est tellement cool ce qui vient de se passer que je pourrais jamais l'oublier. Mmh. Et donc, je prends pas assez de notes. Mais oui,
ce qui est rigolo et paradoxal, parce que quelque part, justement, on veut conserver l'immersion présente. Et donc, on ne prend pas de notes, mais ce qui peut nuire à l'immersion de la prochaine partie ou de la prochaine scène, peut-être.
Ouais, Nergul, sur le chat, nous dit que c'est impossible de prendre des notes en tant que MJ. Bah, moi, j'essaye. Mais effectivement, j'y arrive très mal. Enfin, pas au niveau où j'aimerais. Ou j'aimerais le faire.
Non, bah, à la limite, le truc qui serait possible, mais alors ça demande vraiment du boulot, hein, ce serait de l'enregistrer et après de réécouter.
Alors, bon, ah ouais, mais alors tu passes une plombe, quoi. Ou alors il faut le réécouter en fois deux ou en fois. Bah, pour,
Eh bien, figure-toi. Ouais,
moi, je pense pas que je vais faire ça. Hein,
figure-toi que Callisto, c'est ce qu'il fait souvent. Il enregistre. Il enregistre beaucoup de parties et il va les réécouter ou en réécouter des morceaux quand il en a besoin.
Après tout, c'est ce que font les grands athlètes, hein, les sportifs, ils regardent comment est-ce qu'ils jouent pour s'améliorer, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis d'autre part, prendre des notes en partie. Moi, c'est vrai que
jeux compétitifs aussi, hein. Les échecs et tout.
Ouais, tout à fait. Prendre des notes en partie, c'est vrai que moi aussi j'ai du mal, mais j'essaye de le faire. En tout cas, je trouve ça toujours beaucoup plus facile de prendre des notes pendant la partie, quitte à ce que ce soit des noms, des mots clés, des petites choses. Oui. Que les prendre a posteriori, parce que alors par contre les prendre a posteriori, c'est souvent super chaud. Alors si t'es en train d'écrire un résumé de partie comme il m'est arrivé de le faire, c'est assez sympa, mais alors bon.
Je fais un peu des deux, et d'autant plus que je sais que toi t'improvises pas mal, moi j'improvise un peu dans une trame, enfin j'improvise pas mal aussi, hein, mais surtout j'invente des noms, j'invente des PNJ, donc si je les écris pas tout de suite...
Ouais. Alors c'est à ça que servent les joueurs en fait.
Et donc quand on prend des notes, etc., on est dans quelle strate alors
quand on prend des notes,
perso je pense, non. Alors ça dépend des notes.
Où est-ce que c'est l'activité en partie qui pétarde le modèle des strates?
Peut-être parce qu'il y a quelque part c'est presque de la campagne, ça peut être de la campagne de la session, mais presque du hors-jeu aussi.
Pour moi, quand je prends des notes,
c'est peut-être un geste en fait. Prendre des notes, c'est peut-être un geste.
C'est possible.
Et donc il pourrait rentrer dans les différentes strates.
Alors pour moi, prendre des notes, clairement, c'est la strate de campagne en fait, parce que je suis en train de m'interroger sur les éléments qui vont m'être indispensables à conserver pour les prochaines parties.
Dans une strate, ouais, remarque, oui, t'as raison.
Je sais pas, hein, c'est mon interprétation. Il n'est pas dit que j'ai raison, en fait.
Et donc, pour en revenir à ta question initiale, Willem, de comment on implémente ça en cours de partie, moi, je pense qu'on ne l'implémente pas en cours de partie. Je pense que c'est un outil d'analyse qui te sert soit à la préparation, soit à comprendre pourquoi ta partie a merdé ou à tenter de l'expliquer. Et ça te permet de préparer des choses, donc soit des systèmes de règles, soit des routines, tu vois, c'est-à-dire que dans ta préparation, quand il pense à t'être posé, tu prends ton modèle et tu l'as, mais quand t'es en cours de partie, quand t'es dans ton immersion, l'avoir au fond de la conscience, c'est peut-être intéressant, mais c'est plus le lieu ou le moment de le faire, quoi.
Je pense que c'est super intéressant justement pour ça aussi de pouvoir avoir ça comme outil d'analyse ou de discussion, de modèle de regard pour tes discussions avec tes joueurs aussi. Que tout le monde soit au courant, ça peut aider à construire le contrat social, ça peut aider à résoudre des conflits s'il y en a, peut-être, non ? Parce que justement, ça permet de mettons, si tu as un conflit entre joueurs ou quelque chose qui se passe pas très bien, tu peux regarder, ok, voilà les sept strates, où est-ce que tu en es ? Regardons, ah, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a malentendu entre les joueurs, toi, tu étais à ce point-là, et... Ça aide peut-être à résoudre ce genre de choses.
Et ça aide aussi à comprendre, tu vois, de même que il y a les propositions ludistes, narrativistes, etc. Tu peux aussi te poser la question de est-ce que ce joueur-là, il a envie de rester cantonné à certaines strates par exemple, nous, sur notre partie du jeudi, moi j'ai un copain, Manu, quand il est joueur, ça le fait chier de monter au-dessus de la strate mécanique. Ça le fait chier en tant que joueur de monter à l'histoire ou à la campagne. Lui, il aime bien jouer son perso, être dans le groupe éventuellement et un petit peu dans le système et rester cantonné à ces trois couches-là. Quand tu commences à lui dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et tiens, s'il se passait quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Si tu essaies de l'impliquer dans la création de l'histoire, ouais. Eh ben, ça le désimage.
Ah, mais là, il y a justement, ça, une contradiction, un paradoxe potentiellement intéressant, enfin, un paradoxe potentiel, parce que si tu es en train de regarder ton personnage, ça voudrait dire qu'il interprète que des personnages qui vivent dans le présent et qui ne réfléchissent pas à ce qui va leur arriver dans le plus tard, quoi.
Alors, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est que c'est un joueur qui a été habitué au jeu traditionnel avec le MJ à un scénario.
Ouais.
Et donc cette couche de l'histoire, c'est pas moi que ça regarde. Je suis un type qui se balade dans cette histoire-là, ouais. mais c'est pas moi qui raconte l'histoire, c'est le MJ qui raconte l'histoire.
Mais le personnage, logiquement, si tu es en train d'interpréter ton personnage, et même si tu penses par le point de vue de ton personnage, je pense qu'il doit avoir une certaine ambition ou évolution ou un vouloir sur l'histoire.
Je vais préciser un peu le truc. C'est-à-dire que si moi, je lui demande d'envisager de me proposer une adversité qui pourrait être intéressante pour lui à ce moment-là dans l'histoire, ouais. Ça le fait chier.
D'accord, ok.
Tu vois, par contre, si je lui fais des propositions et que si je lui demande juste de réagir du point de vue de son personnage, mm-hmm. il va peut-être envisager les conséquences que ça aura pour l'histoire. Mais pour moi, il est plus dans la strate personnage que dans la strate histoire ouais. à ce moment-là. Tu vois.
Et donc ça fait aussi que
il va pas construire de l'adversité.
Ouais, et il est plus en train de réagir du coup aussi.
Oui, voilà. Effectivement, un joueur réactif, il va pouvoir être plus bas. Un joueur proactif, il va de plus en plus empiéter sur l'histoire ou sur la campagne.
Tiens, c'est marrant. Nergul nous fait remarquer quelque chose de très intéressant. Quand on parle du personnage qui se balade dans l'histoire sans la raconter, etc., il dit que, du coup, le joueur va être amené à défendre son personnage et à jouer de manière à vraiment faire avancer les intérêts, mais alors là, au sens le plus basique, de son personnage, même si ça rend l'histoire moins intéressante. C'est l'exemple du joueur qui va garder ses secrets près de lui et ne jamais les révéler parce que ça protège son personnage. Alors que nous, le conseil qu'on a donné régulièrement autour de ces micros, c'est qu'un secret, il est fait pour être révélé parce que ça crée des situations vachement intéressantes.
Oui.
Alors, c'est intéressant à analyser vis-à-vis de cet aspect-là. D'autre part, pour revenir sur le côté histoire, je pense qu'un joueur comme Manu, il va observer la strate histoire, il va prendre en compte ce qui s'y passe, mais il va refuser d'y être acteur.
Voilà.
Ou plutôt d'y être auteur. Ouais. Parce que d'y être acteur, il joue dans l'histoire. Quand il est joueur, bien sûr, quand il est joueur, évidemment. Parce qu'il est aussi MJ, et dans ce cas-là, il est classique, quoi.
Ouais.
Rien à redire de ce point de vue-là.
Et clairement, quand les joueurs font un truc qui fait chier tout le monde à la table et que le joueur dit, bah écoutez, moi j'ai fait jouer mon personnage, c'est typiquement quelqu'un qui veut pas sortir de sa strate de personnage, qui s'en fout des conséquences que ça peut avoir pour la strate groupe, la strate histoire.
Ah, c'est vachement marrant ça, parce que ça me renvoie aux critiques qu'on entend régulièrement sur l'agentivité, qui devient une excuse. Qui devient une excuse pour avoir des comportements qui défavorisent le groupe et qui défavorisent le fonctionnement de la partie quand les gens sont en mode groupe, si tu veux.
Ou en mode histoire.
Ouais, ou en mode histoire, bien sûr, oui, tout à fait. Enfin, quoi que, ça dépend. En fait, non, ça dépend, oui. Parce que si l'histoire, elle développe le côté... comment dire
Si, typiquement, c'est tu vois, le MJ vient, propose un truc, et le joueur dit, écoute, moi, mon perso, il a rien à foutre là, il se casse.
Ouais, mais alors, est-ce qu'il joue contre le mode histoire, ou est-ce qu'au contraire, il prend un peu le contrôle de la strat histoire en disant, non, ce qui m'intéresse, c'est pas ton histoire, c'est une autre histoire. Donc, je vais essayer de réorienter tout ça vers des choses qui m'intéressent, moi. Peut-être en mettant
souvent,
en connexion
souvent,
directe...
Souvent, ces joueurs-là, ils font pas de contre-proposition. Ils te disent pas « Non, ça m'intéresse pas, on va faire ça plus tôt. » Ils te disent « Non, ça m'intéresse pas, je fais autre chose. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, maître du jeu ?
Oui, c'est ça.
Enfin, moi, ça, c'est mon expérience. Hein.
Oui, c'est le côté « Non, ça intéresse pas mon perso, de toute façon, il ferait jamais ça. »
Voilà. Mais le mec, il fait pas de contre-proposition derrière. Il dit juste que ça, il le fera pas. Et toi, tu te démerdes avec ton
histoire. Mais c'est vachement marrant parce que cette position de... Non, moi je ferais jamais ça, mon perso il le ferait pas. Si tu es en réflexion histoire ou en réflexion groupe, effectivement c'est un problème. Si tu es en réflexion personnage, ben non, ça se c'est justifie très, logique, très, très bien.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien ? Il faut accepter de passer d'une strate à l'autre, il faut jouer avec plusieurs strates, il faut mettre dans le contrat social au départ, explicite ou implicite, le fait que, en fait, on peut passer d'une strate à l'autre, que, enfin, je sais pas, tu vois, c'est...
Alors ça, moi, je me raccroche à un autre podcast du Misdirected Mark sur la culture des questions. Il faut instaurer à sa table une culture de questions.
Et de communication ouverte sur le contrat social, c'est ça?
Et donc, ne plus être prescripteur en tant que maître du jeu.
Ah oui,
mais
d'accord.
Dire, okay, ton personnage, il a aucune raison d'être là. Bah, justement, explique-moi pourquoi il y est quand même.
Mmh. Bah ouais, mais regarde l'expérience. Bah, je crois pas qu'il nous écoute, Manu. Mais, regarde Manu, les expériences qu'on a eues avec lui. À chaque fois que tu lui demandes, bah alors, qu'est-ce t'en penses ? Parce que toi, en tant qu'MJ, tu sais pas ce qu'il y a dans cette histoire, et tu sais pas ce qu'il y a à ce niveau-là, cet élément de l'histoire. Il sait pas te répondre.
Mais
il
oui.
veut pas. En fait, c'est même pas qu'il sait pas, parce qu'il en est parfaitement capable. C'est qu'il ne veut pas te répondre. Il te dit, mais écoute, Coco, arrête d'être paresseux. C'est ton rôle.
Boulot.
C'est ton boulot de me raconter ça. C'est pas mon boulot. Ouais.
J'ai même un joueur à cette campagne. Il me l'a foutu dans la gueule. Il m'a dit, mais on s'en fout. Tiens, il y a des hippies qui font des massages.
Exactement. Alors c'était pas ma démarche. C'était pas du tout te dire c'est ton boulot.
Ça fait partie du contrat social, ceci dit. Si t'es avec une, enfin je pense non.
Non, ouais, c'était plus un défi que je te lançais.
Si on revient à ça, le scénario où tu te dis intro du scénario, mes personnages sont faits prisonniers et le scénario c'est ça se passe en prison, ça marche pas parce que tes personnages vont se bloquer dans la vont mal comprendre ton intention et ils vont verrouiller sur il faut pas qu'on nous arrête. Donc de la même manière, tu vas leur dire bon les gars, le scénario commence en prison, expliquez-moi comment vous êtes retrouvés là.
Ouais, mais alors il y a un truc qui m'intéresse aussi parce que ça on en a déjà pas mal parlé. On a bien parlé de la façon dont le jeu tradis s'articule avec ces notions de strates. J'aimerais bien qu'on reparle peut-être un petit peu de la façon dont les jeux non traditionnels s'articule autour de ces strates-là.
Mmh.
Parce que, est-ce que ça nous apporte autant, ce modèle d'analyse, sur les jeux non traditionnels ?
Ça va dépendre des jeux.
Les misdirected marks disent que des jeux comme Fate, par exemple, propulsent le joueur beaucoup plus vers l'histoire.
Ouais.
Parce que ils peuvent vraiment, avec les aspects, etc., créer des éléments qui n'existaient pas avant, qui ne sont pas de l'autorité du maître de jeu, et ils remontent dans les strates, quoi. C'est-à-dire qu'ils montrent que les jeux indie, en tout cas qui sortent du dispositif classique, vont avoir tendance à mettre un peu tous les joueurs à des niveaux différents de ce modèle. Alors je me souviens plus exactement des. Hein, il parle de Fate, il parle de
zut. Apocalypse.
Je crois qu'il parle d'Apocalypse World, il parle aussi de Savage World. Et je sais plus trop où il les positionne dans les.
Savage World,
ça remonte quoi.
C'est du tradit Savage World, hein, complètement.
Ouais, mais t'as des systèmes de bénise où les gens peuvent pareil rajouter un petit peu des trucs à leur sauce a priori.
C'est vrai. Mais pour moi, on peut-être reste dans la strate personnage, hein, cela dit. Mais bon.
Ouais, je pense, non. Bah, là, par contre, si on sort, voilà, juste avant que tu lances le live, on parlait de Microscope.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors,
là,
Microscope,
par contre,
voilà.
On est plus, c'est pas pareil. Là, dans
alors, est-ce que tu peux nous présenter Microscope pour nos auditeurs qui ne le connaisseraient pas,
oui,
et moi, d'ailleurs,
j'ai un jeu indé que j'ai essayé. Donc,
vas-y.
Donc, Microscope est un jeu que j'ai trouvé étant plutôt une méthodologie de quelque chose. Où l'idée c'est que tu crées collaborativement une civilisation et ça s'appelle Microscope parce que tu démarres sur une civilisation en termes de macro, tu peux choisir n'importe quoi comme thème. Le jour où j'ai joué c'était un truc de science-fiction, donc tu démarres le début de tu démarres sur une ère. Le début de l'ère c'était par exemple pour nous c'était les humains partent de la Terre en quête de coloniser une autre planète. Et la fin de l'ère, c'était tous les l'empire est consolidé en un seul empire. Voilà, comme ça. Ou une planète explose, je sais plus. Et après, chacun, sur chaque tour, les joueurs établissent des événements. Et les événements peuvent être de plus en plus microscopiques. C'est-à-dire que tu peux établir un événement qui soit d'importance galactique jusqu'à jouer une scène entre deux personnages qui... alors, pour te donner un exemple historique, mettons, tu peux définir que ton ère, c'est le XXe siècle. Et après, tu vas arriver jusqu'au point où deux joueurs sont en train de jouer l'assassinat du duc, je ne sais plus comment il s'appelle, à Vienne, qui a mené à la Première Guerre mondiale. Mmh. Voilà. Et voilà.
Et donc clairement, on est plus sur des strates campagne ou histoire que...
Oui,
et plus rarement sur des strates personnages, même si, comme tu viens de dire, on peut redescendre jusqu'à la...
On peut redescendre jusque-là, et il y aura quelques scènes personnages, mais c'est pas un personnage que tu interprètes sur plusieurs... Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de... C'est plutôt... J'ai trouvé ça une méthodologie, parce que c'est très intéressant, j'ai trouvé que c'était sympa de passer 2 heures à faire ça. Ça fait un espèce de brainstorm pour créer un univers de campagne très intéressant. Mmh. C'est très intéressant. Je n'ai pas très envie de refaire une autre partie tout de suite. Mmh. Okay. Mais effectivement, ouais, tu joues plutôt dans les strates au-dessus que celles du personnage. Et il n'y a pas de groupe, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas de mécanique. Enfin, si, il y a une mécanique, quand même. Il y a une mécanique, il y a des règles. Il n'y a peut-être pas de strates de groupe, parce que... Ah si, alors, à la limite, je pense que la traduction... La strate de groupe, c'est que chaque événement qui est posé, tu dois le considérer. Tu peux pas contredire un autre événement que quelqu'un, un autre joueur a posé.
Ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a pas de strate de personnage en fait.
Bah si, parce que tu peux jouer des scènes avec des personnages, mais
tu peux jouer des scènes avec des personnages.
Ouais. Mais, je dis des bêtises. Ok.
Mais alors là, par contre, ceci dit, c'est que l'organisation du jeu est assez beaucoup plus clairement.
Oui, c'est pas le propos.
Sur une autre, de tour en tour. Il y a un tour qui va être une strate de personnage, parce qu'il y a un tour, il y a un tour de jeu où tu joues à ce niveau-là. Et tu dis, bah, en fait, moi, je choisis de faire une scène de personnage. Donc, du coup, tu annonces, en fait, la strate, quelque part.
Ouais. Et c'est sans doute pas le focus du jeu, effectivement, quoi. Le focus du jeu, il est situé au niveau de l'histoire ou de la campagne.
Ouais, c'est arguable, hein. Le focus du jeu, c'est justement que tu fais tous les niveaux, en fait.
Jusque-là, on a abordé ce modèle en essayant de voir comment ce qu'on fait peut s'y intégrer. Si on voulait tester ce modèle, il faudrait essayer de le réfuter. Il faudrait essayer de trouver des situations dans lesquelles il ne marche pas.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez des idées de situations dans lesquelles il ne marche pas?
Mais comment il pourrait ne pas marcher? En fait, alors, ça ne fait que décrire des états.
Bah oui, mais si ce qui décrit, déjà, si on a des strates supplémentaires ou des strates dans celle-ci qui n'existent pas vraiment, tu peux effectivement l'amender ou le réfuter.
Bah, un des trucs que je disais tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est valable, bon, ça se discute, tout le monde discute, hein, mais. Je pense que c'est intéressant de les séparer, mais qu'il y a des strates où tu peux jouer, où tu peux faire les choses en même temps. Mmh. Par exemple, tu peux être à la fois en train d'interpréter ton personnage, de te préoccuper du groupe parce que tu es en personnage, en train d'immerger, en train de parler avec ton groupe, avec tes autres personnages, et d'être préoccupé par l'histoire parce que tu discutes en personnage de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous allez faire. Mmh. Et oui, donc, tu peux avoir 3 ou 4 strates en même temps.
Ouais, mais alors, est-ce que l'observation de la strate histoire est être dans cette strate histoire? Parce que l'observation ou le commentaire de la strate histoire, de la strate partie, le fait de parler en personnage de ce qui se passe dans le monde autour de toi, pour moi, c'est pas être immergé dans cette strate-là, parce que être dans cette strate-là, ça impliquerait de pouvoir agir sur cette strate-là. Et peut-être que on pourrait redéfinir ou en tout cas préciser ce modèle en disant que pour être dans une strate, il faut agir sur cette strate.
Oui, mais en fait, le truc intéressant...
Ou agir via cette strate.
Quand tu interprètes un personnage dans un jeu de rôle relativement traditionnel, le seul moyen d'influencer sur l'univers, c'est d'être dans ton personnage.
Ah ben, je suis bien d'accord.
Alors après, tu peux discuter hors jeu de l'histoire et de la campagne, hein, mais et des refaits.
Et tu peux discuter aussi des motivations qui te font prendre les. Enfin, Tu peux décider de la façon dont viennent les motivations des actions de ton personnage. Là, on retombe dans les postures de Ron Edwards dont je parlais, d'auteur, de joueur et de marionnettiste éventuellement. Je relisais tout à l'heure l'article sur PTG, PTB à ce sujet-là, qui a été traduit en français donc. Il te dit que, en posture auteur, tu vas considérer l'intérêt de l'histoire. Et tu vas faire un choix pour ton personnage, mais non pas vis-à-vis du personnage, mais vis-à-vis de l'intérêt de ce choix et des impacts de ce choix sur l'histoire, et qu'ensuite, tu vas trouver un moyen de justifier la façon dont ton personnage fait ce choix.
Et alors à ce moment-là, du coup, tu penses que tu es plutôt en train de te préoccuper de l'histoire et de la campagne que de ton
personnage. Eh bien, je pense qu'en fait...
l'histoire que dans le personnage.
Ouais, sauf que comme tu vas justifier a posteriori le choix du personnage, c'est-à-dire que tu fais ton choix en étant dans la strat-histoire, et tu expliques ton choix
tu l'implémentes dans la strat
personnage.
Oui, parce que on crée des personnages qui ont des défauts qui sont humains, enfin pas forcément humains, mais et donc forcément en jouant son personnage, on joue ses défauts et ses avantages.
Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, ça. Dès qu'on veut faire un jeu soit coopératif, soit compétitif, parce qu'à mon avis la strat groupe elle fonctionne à la fois en compète et en coop. Quand tu joues de ce point de vue-là, tu fais des allers-retours en permanence. C'est-à-dire que tu vas te dire, alors soit tu abandonnes la strat personnage, entre guillemets, et tu vas réfléchir uniquement à l'intérêt du groupe, soit tu vas passer un petit moment à te dire, bon, là, a priori, mon personnage, il ne devrait pas aider le groupe.
Mais
pour l'intérêt du jeu, il va le faire. Pourquoi est-ce qu'il va le faire ? Voilà. Oui, vas-y, Willem.
Non, je t'en prie, vas-y. J'allais dire un autre truc intéressant au niveau d'arguer sur les strats, c'est que tout ce qu'on est en train de discuter, c'est forcément que tu as besoin de te détacher un minimum du jeu. Et on l'appelle le hors-jeu, ce côté-là. Alors que là, dans le modèle des strats, le hors-jeu, c'est carrément, ça n'a plus rien à voir avec le jeu, quoi. C'est les considérations du chauffage et de la bouffe.
C'est sûr que ce système de strats, il pétarde un peu la notion de metagaming, quoi. En fait, le metagaming, c'est juste se situer dans une strate autre que celle où on t'attend traditionnellement.
Il y a deux aspects au metagame. Il y a le côté « je suis en train de réfléchir au jeu sans être dans le jeu » et t'as le côté « je suis en train de réfléchir au jeu en utilisant mes informations de la strate hors-jeu et personnelle sur les autres participants à la partie. » Par exemple, je sais que le MJ, il est Vislard. Et par conséquent, je vais me débrouiller pour je sais que le choix que je vais faire, il va entraîner des conséquences. Mon personnage, il a aucune idée que ça se passe. Il y a aucune raison dans le monde que ça se passe. Mais comme mon maître du jeu est Vislard, il va me le mettre dans la gueule, c'est sûr. Tu vois ? Et ma décision, elle prend en compte ce fait-là. Donc, tu vois, t'as deux aspects du méta-jeu. T'as le côté manipulation des joueurs.
Non, j'allais dire, je suis d'accord, mais enfin, on en fait tous un peu de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des niveaux qui sont plus ou moins intolérables selon les jeux, selon les parties, selon les groupes, quoi.
Mais tu vois, quand tu commences à jouer le joueur, est-ce que t'es pas dans la strat personnelle ? Quand tu joues pas le personnage, mais tu joues le joueur, parce que tu le connais, parce que tu sais comment il va réagir, parce que.
Mais il y a des trucs qu'on fait inconsciemment, on va t'empêcher, de toute façon. Comme tu viens d'expliquer, Julien, dans l'exemple, je sais que le jeu est vice-là, la moitié du temps, tu le fais à moitié inconsciemment. Tu vas essayer de te préparer à un truc vice-là, mais ce n'est pas mal intentionné nécessairement.
Et par exemple, ça me fait penser à la strat hors-jeu. Dans le podcast, ils expliquent que la strat hors-jeu, c'est aussi ce qui t'amène, toi, en dehors des parties, à continuer à penser au jeu. L'exemple qu'ils prennent, c'est Magic the Gathering. Quand tu joues tes cartes, mais quand tu fais ton deck tout seul dans ton coin chez toi, quelque part c'est du hors-jeu puisque tu n'es pas encore en train de jouer à Magic, mais tu prolonges l'expérience du jeu hors-jeu par sa préparation. Quoi.
C'est intéressant qu'ils n'utilisent pas un jeu de rôle pour représenter un modèle qu'ils utilisent pour le jeu de rôle en même temps.
Oui, enfin bon, c'est parce que l'inventeur de Magic, il a été quand même,
Ah non, mais ça, c'est sûr, il est fort. Mais du coup, je me demande, est-ce que ils voulaient dire par là qu'ils peuvent appliquer le modèle à d'autres types de jeux?
Si on reprend Sens, c'est un jeu qui t'amène, qui a une proposition claire hors jeu. Je veux dire, Romaric Briand, il veut t'amener à te poser des questions philosophiques pendant et surtout en dehors de la partie, quoi. Il veut que entre deux parties, tu cogites, tu poses des questions, tu ailles lire des trucs, certes pour pouvoir les réinvestir dans ta partie, mais à ce moment-là, tu joues pas. Enfin voilà, peut-être que lui nous dirait que tu joues à sens, tu continues à jouer à sens, mais pas au sens classique. Du jeu de rôle autour de la table avec tes potes, en tout cas. C'est cette catégorie, c'est dans cette idée-là qu'ils entendent et qu'ils pensent la strat hors-jeu, en fait. Hors-jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec le jeu, tu vois.
Moi, je pense qu'un des trucs que j'aime bien dans le... Je change un tout petit peu la question, mais pas beaucoup. Que j'aime bien dans ce modèle, c'est que je pense que si je réfléchissais ça en préparant une partie... Bah j'aurais voilà. probablement plus de facilité à réfléchir à des scènes et à des jeux ou à des événements appropriés pour les différents joueurs autour de la table. Parce que ça, j'oublie parfois de donner plus d'exposition à un joueur ou à un autre. Genre, j'y arrive en général, hein, mais je prépare pas forcément. Ou en préparation en fait, mais d'y réfléchir en avance en me disant « Ah oui, tiens, ce perso-là ou ce joueur-là, il a pas été trop là sous le projecteur depuis une ou deux parties, ce serait bien de lui filer un peu plus de trucs. » Peut-être, je
sais pas. Ouais, faire un petit focus sur le personnage ou tiens, j'ai l'impression qu'ils partent tous dans tous les sens. Est-ce que je vais essayer de quel moyen je peux trouver pour faire un focus sur le groupe ou
C'est hyper marrant parce que je me faisais une réflexion quand je voyais le modèle des strates. C'est sur le démarrage d'une partie de jeu de rôle. Quand tu démarres une partie de jeu de rôle, traditionnellement, tu démarres en hors-jeu. Tu dis bonjour, tu t'installes, tu sors le saucisson, tu prépares la fondue bourguignonne dans certaines parties.
D'ailleurs, ça rappelle l'épisode sur les rituels, on avait fait sur les rituels de hors-jeu.
Absolument. Tu vas éventuellement passer par la strat personnelle en te demandant comment tu vas jouer ce soir, comment ça t'affecte, est-ce que t'es de mauvaise humeur, donc tu sais que ton personnage il va être de mauvaise humeur, etc. Tu te remémores la situation de la campagne, puis tu t'intéresses à ce qui se passe dans la partie. Alors, la strat mécanique, elle peut intervenir ou ne pas intervenir. Et puis après, tu te concentres sur ton personnage. J'ai l'impression qu'en fait, entrer dans le jeu, c'est pénétrer profond dans ces strates jusqu'à atteindre la strat personnage pour les joueurs et jusqu'à atteindre la strat peut-être partie ou mécanique pour le maître du jeu.
D'ailleurs, moi...
Jusqu'à ce que t'aies profondément pénétré le personnage.
Exactement. Mais ça, c'est le rôle du maître du jeu, n'est-ce pas? Oh, Willem, franchement...
D'ailleurs, désolé, moi, quand je commence une campagne, je connais pas grand-chose de mon personnage, en fait. Et j'ai besoin du support du groupe, c'est-à-dire des autres personnages. J'ai besoin du support de ce que me propose, de ce que commence à me proposer le maître de jeu, c'est-à-dire de ce que je perçois de la strat histoire, pour petit à petit construire mon personnage. Moi, Xavier, hein, c'est pas... C'est comme ça que je fonctionne quand j'aborde une nouvelle campagne. C'est-à-dire qu'au départ, je crée un perso, mais c'est un peu une coquille de vide, ou en tout cas, c'est une coquille mécanique. Et je vais m'immerger petit à petit dans la strate personnage en ayant traversé le filtre d'abord du groupe, de la campagne et de l'histoire. Je sais pas trop dans quel sens, mais.
Ça, on en a parlé déjà, je pense, sur un autre épisode, mais c'est un des trucs que moi je fais. Alors, ça dépend des jeux, mais si je vais faire une campagne, je vais construire une campagne en tant que jeu. C'est une session que je fais avec mes joueurs pour qu'on discute de pourquoi ils sont ensemble, pour justement commencer à remplir un peu cette coquille et qu'ils la fassent en tant que groupe aussi.
C'est marrant parce que moi, quand je crée un perso, j'ai tendance à beaucoup plus créer le personnage, sa personnalité, etc., etc., et après à passer à la mécanique. Sauf dans certains jeux qui sont très mécaniques, comme Donjon, par exemple, où c'est vrai bien que sûr. Je vais me dire... tel concept me plaît bien, quel personnage je vais pouvoir faire à partir de tel concept mécanique.
Mais pour la plupart, ça, c'est intéressant d'un point de vue de règles, d'ailleurs.
Oui.
Est-ce qu'il y a des règles de certains jeux qui te mettent plus dans une strate qu'une autre? Par exemple, c'est vrai que Donjon, de choisir une classe, t'es presque obligé de réfléchir à la mécanique avant de...
Tu réfléchis mécanique et groupe dans ce cas-là.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres comme système? Est-ce que Fate, là tu disais tout à l'heure que Fate est censé être plus branché sur l'histoire?
Il est un peu hybride, Fate, a priori, de ce qu'ils en disent. Il est beaucoup plus flottant au niveau des strates, quoi.
Ouais.
Mais sur des jeux un peu story game, souvent le focus il est plutôt mis sur la strat histoire, quoi.
Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Je sais que Non Armies, ça dépend hein, vraiment, mais je pense que. Et tu peux l'approcher d'un point de vue de campagne ou d'histoire, ou un point de vue de groupe, ou individuel. Mais en général, si tu l'approches d'un point de vue individuel et coquille vide, tu vas aller au désastre si tu essayes de faire jouer un groupe de gens ensemble, parce que tu peux facilement créer des concepts de perso qui ne devraient pas être ensemble du tout, quoi. Ouais. Si, tu peux faire ça dans Donjon aussi, en fait. Hein, mais...
C'est un classique, même.
Donc, ouais, imagine... ça faisait partie d'un des trucs de Happy Jacks que j'écoutais. Ouais. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout, mais... Il parlait justement du genre de concept où tu débarques dans un donjon et que pourquoi est-ce que tu as un paladin et un voleur neutre mauvais ensemble, enfin, c'est pas logique.
Ce qui est vachement marrant, c'est
une nécromancienne drag queen. Et,
ouais. Mais ce qui est vachement marrant, c'est que tu pourrais réfléchir.
Le groupe Famille Adams, tu sais.
Tu pourrais réfléchir à ce que c'est qu'un bon groupe de joueurs en partant sur. Enfin, une bonne création de perso, pardon. En regardant combien de strates t'es censé intégrer dans une bonne création de perso. Parce que si tu crées juste ton rôle, juste la personnalité de ton personnage, il y a des jeux où ça suffit. Hein. Bon.
Tu crois ? Mais alors, il y a des jeux où en one shot ou en campagne ?
Oh, même en campagne, je veux dire, il y a des jeux. Alors, bon, il faut
mais
pas
est-ce
oublier...
que des jeux ou des styles de joueurs ? Ou de jeux, des styles de jeux par les personnes qui le jouent
Moi, je pensais plus à des jeux parce que il faut pas oublier qu'il existe du jeu de rôle sans règles. Hein.
J'accuse, pardon.
Non. Il y a toujours au moins un système zéro.
Il existe du jeu de rôle sans règles.
Sans règles.
Eh si, ça existe.
Non. De quoi donc, genre, moi je dis que t'es le gendarme et.
Non, alors effectivement.
La règle minimum, c'est tant que tout le monde est. Tant que personne ne moufte, on continue. Et,
oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Alors, je rectifie mon petit troll. Il existe des jeux de rôle sans mécanique.
Lequel tu parles ?
Sans mécanique de résolution.
Sans mécanique de résolution, pas sans règle, mais sans mécanique de résolution. La mécanique de résolution, c'est simplement je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, si tu veux.
Non, mais c'est une mécanique en soi, ça.
Disons, alors, si tu préfères, si tu veux vraiment pinailler, on va dire, il existe des jeux où la strat mécanique est réduite à sa plus simple expression.
Plus simple expression. Tout à fait.
Donc, jusqu'à en devenir quasiment inexistante.
Ouais, mais alors je pense que justement, même si la strate de mécanique est réduite à quelque chose de très simple, elle en devient aussi importante, parce que s'il y a très peu de règles, les règles qu'il y a sont très importantes à considérer quand même, non ?
Eh ben non, pas forcément, parce que imagine que ta règle de base, c'est ma proposition est valide tant que quelqu'un ne la contredit pas, ok ?
Ouais, mais c'est une règle super importante.
C'est une règle super importante. En quoi est-ce que cette règle va t'influencer dans la façon dont tu vas créer ton personnage ?
Alors là, les considérations seront plutôt du terme personnel, quoi, parce que...
Exactement, et c'est de ça que je voulais parler.
Je sais que le jeu est un vicelard, par exemple, pour revenir à ton exemple précédent.
Ouais, tout à fait, ouais.
Moi, je sais que je dis ceci vraiment en système, alors c'est de la théorie à la globo, hein. Ça a rien d'officiel. Je crois que je suis le seul un peu à me comprendre là-dessus.
C'est déjà très officiel. Hein. On a des auditeurs. Hein. Tu sais, on a une responsabilité envers les auditeurs hein, maintenant globo. Hein.
Je dis ceci le système de résolution du système de jeu.
Oui.
Dans le sens où pour moi le système de résolution c'est ce qui va te permettre de lever une indétermination et le système de jeu c'est ce qui va enrichir ta partie, c'est ce qui va apporter du jeu et des propositions à ta partie.
C'est la structure de ta partie, en fait, quelque part. C'est les règles qui structurent ta partie.
Les règles qui vont générer de l'histoire parce qu'elles existent, quoi.
Mmh. Et les règles qui génèrent pas d'histoire.
C'est comme quoi, par exemple ?
Je sais pas, c'est difficile d'avoir des exemples comme ça, mais des règles qui sont pas très génératrices d'histoire, qui sont génératrices d'autres effets, par exemple.
C'est sans doute du système de résolution. C'est-à-dire, je veux crocheter une porte, comment je fais pour ouvrir la porte, jette un descente,
un jeu qui t'explique comment.
Ça génère pas fondamentalement de trucs, quoi, ça.
Ouais, mais imagine un jeu qui t'explique comment te placer autour de la table.
Oui.
Comme les chaises musicales.
Ouais, non, mais justement, pas comme les chaises musicales.
D'accord.
Mais un jeu qui t'explique, qui te dit, par exemple, le maître du jeu devrait se placer au milieu des joueurs et pas en bout de table. Ça peut être une règle du jeu. Ça fait partie du système, ça.
Non, mais voilà. Mais je... Ouais. Ça résout rien, mais moi, je...
Enfin, là, il fait pas partie de...
Cette règle-là, elle va générer du jeu parce que ton rapport aux gens à la table va générer une relation différente.
Je suis pas d'accord avec toi. Elle va influencer la nature du jeu, mais elle va pas générer du jeu.
Ouais, mais tout
Alors
peut générer
peut-être que
du
je
jeu si
pinaille.
les joueurs... Non?
Peut-être que je pinaille, hein. C'est très possible que je
Oui,
pinaille.
sans doute. Enfin, il y a sans doute des cas limites, tu vois, comme dans toute distinction, comme dans tout modèle. Hein.
En
Effectivement,
fait,
donc
c'est
tu peux
juste
t'en
sur
faire
le
perdre le
PA.
fil de ce qu'on était
Maintenant,
en train de dire là, donc.
est-ce que cette règle de tu définis où doit se placer le maître du jeu, elle est essentielle au jeu, tu vois?
Je sais pas,
Ou est-ce
prenons
que
une autre
c'est
règle.
du cosmétique
Prenons une autre règle. La partie commence quand j'allume la bougie.
Ouais.
Mais ça, c'est des règles qui sont forcément dans les strates perso et hors-jeu. Non?
Peut-être, peut-être, mais qui te permettent de franchir ces strates pour pénétrer jusqu'au cœur du problème, c'est-à-dire le personnage. Mais non, mais c'est juste cet aspect-là, c'est-à-dire que
Pourquoi le cœur du problème est le personnage,
non, non,
ceci?
mais en général, je suis d'accord, en général. Non, non, mais tu vois, l'idée
Non, mais
c'est
t'essayes de challenge le. Enfin, de challenge de
oui, de
discuter,
mettre en
quoi,
cause
le
le
système,
système.
en fait. Ouais.
Bien sûr, ouais, tout à fait. En
Ouais.
fait, je suis d'accord avec Xavier sur le fait qu'il puisse y avoir un système de résolution qui te permette de choisir comment tes actions vont être résolues, en tout cas des règles de résolution, et que tu puisses avoir d'autres règles qui ne sont pas des règles de résolution. L'exemple qui est vraiment très très parlant en termes de règles d'univers, qui va être celui de Bloodlust, où dans l'univers de Bloodlust, le peuple des Seekers n'est composé que de femmes. Tu ne peux donc pas jouer un homme Seekers. C'est pas possible. Pourtant, le système de résolution ne te l'interdit à aucun moment. C'est l'univers qui te l'interdit. Donc ça, c'est point de vue règle d'univers. Ce que je conteste un petit peu dans ce que dit Xavier.
Et le fait que les Seekers ne soient que des femmes, ça va générer une histoire différente
Oui,
que
je suis
si on...
d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur cet exemple-là. Ouais, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas d'accord dans le fait que le système de jeu au sens large, opposé au système de résolution, n'est que le système qui génère de l'histoire. Pour moi, c'est un système qui va cadrer ta partie, qui va te dire ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, qui va donc influencer le type d'histoire que tu vas dire, mais qui ne va pas nécessairement créer de nouvelles histoires. Mais comme je dis, peut-être que je suis en train de pinailler. Hein,
Mais je
donc,
sais pas, mais on
voilà.
s'éloigne un peu de la question du
Oui,
modèle des
on
strates, là, quand
s'éloigne
même,
du
non?
modèle des
Tout
strates,
à
c'est
fait,
vrai.
on s'en éloigne.
Enfin, c'est ce qui me dérange pas, mais juste pour capter.
Mais merci, merci, William. Tu me sors d'un fort mauvais pas. Je t'enverrai ton pack de bière comme prévu.
Très bien, très bien.
Alors,
Tu les
les
gardes,
strates.
non?
Est-ce qu'on
Oui.
a encore des choses à dire, des
Maintenant,
exemples à
peut-être que, voilà,
explorer sur
peut-être
les
que si on
strates?
digresse, c'est aussi peut-être parce qu'on a fait un peu le tour de.
Peut-être qu'on a fait le tour.
Parce que moi aussi, ce truc-là, tu vois, je l'ai découvert là, cette semaine en écoutant le podcast. Peut-être que ce modèle, il mérite d'être digéré, réfléchi, pensé, de voir comment on l'utilise aussi. Hein.
Peut-être même
Enfin,
s'il
moi,
y a d'autres strates.
voilà, j'en parle sous l'effet de
Ouais, bien
la.
sûr, bien sûr.
Tu vois, de la
Est-ce qu'il y a,
découverte
on
du
a des
mouvement.
exemples ou des idées pour d'autres systèmes de jeu? Parce que sinon, c'est vrai qu'on a peut-être fait le tour. Hein. Parce qu'après, il faudrait que je le teste. Et puis là, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas assez joué là. Donc,
Juste
moi,
un.
pour moi, c'est surtout un filtre à appliquer sur une réalité des parties de jeu de rôle, c'est-à-dire une entrée pour les analyser ou pour les comprendre, quoi.
Absolument.
Point. Tu vois, c'est.
Ouais.
Et après, faut voir ce que tu fais de cet outil-là. Et ce qui, moi, il m'a permis notamment d'éclairer certains trucs. Que je comprenais intuitivement, mais pour lesquels j'avais pas de mots, et en les regardant avec ce filtre-là, je me dis, ah oui, d'accord, ah ouais, je comprends mieux, voilà, mais bien sûr que je l'aurai pas à l'esprit la prochaine fois que je fais une partie de jeu de rôle, quoi, ou vraiment en arrière-plan, quoi.
Bon, en tout cas, ça me paraît intéressant la prochaine fois que je préparerai une partie ou une campagne de regarder ce point de vue-là.
Mais même peut-être quand tu joues, hein, tu peux dire, tiens, est-ce que là, si j'agis du point de vue de mon personnage, je fais ça, si j'agis pour le groupe, je fais ça, mais j'ai peut-être telle option, ce serait peut-être plus intéressant pour l'histoire, qu'est-ce que je privilégie, de quoi j'ai envie. Tu
Alors,
vois, ça t'offre
juste
peut-être de la
un.
possibilité.
Un détail, parce que tu dis, ça m'est venu dans la semaine en écoutant un podcast. Les types qui font ce podcast, c'est pas non plus des, comment dire, des
Des
Béotiens,
Mickey?
quoi. Ouais,
Ouais.
voilà. C'est quand même Chris Sznicak et Phil Vecchione. C'est quand même des types qui font partie du Gnome Stew. Enfin, Gnome Stew. Et Gnome Stew, c'est les types qui vont publier des bouquins comme Never Unprepared, comment ça s'appelle? Odyssée, je crois, ou un truc comme ça. Bref, une série de bouquins de conseils pour gérer tes campagnes, pour gérer la façon dont tu vas organiser tes parties, etc. Donc, les gars, ils ont eu quand même une réflexion assez poussée sur le sujet et sur la formalisation d'un certain nombre de conseils, hein. C'est pas.
Enfin, en même temps, je pense pas qu'ils aient pas forcément. Ils ont peut-être plus d'expérience, mais je pense qu'ils aient beaucoup plus d'expérience que vous deux, hein.
C'est pas la question. C'est juste pour dire que si le sujet paraît intéressant à Xavier,
c'est que ça a été quelque chose de réfléchi. Chose... Hein, ils non, ont passé le temps à réfléchir.
Ouais, il y a aussi quelque chose derrière, quoi. C'est pas
Est-ce que tu veux dire, Julien, qu'ils ont passé plus de temps à préparer l'épisode de leur podcast?
Ah bah ça, c'est évident.
Ça, c'est évident.
A priori, eux, ils les préparent, leur podcast. D'ailleurs,
ça,
si
tu n'es pas censé le dire, parce que là, tu vois, tu nous passes en strate hors-jeu, voilà. Et donc, du coup, on a l'air très con. Nous, on est en strate personnage.
Bah, c'est comme ça que ça se passe, hein, souvent, d'ailleurs. D'ailleurs, on change vraiment dramatiquement de strate quand il y a un mec à la table qui dit une grosse connerie, et, genre moi, souvent, par exemple. Et qui sort tout le monde de l'immersion.
Attention à l'argument d'autorité, cela dit, voilà, quand on écrit des bons bouquins, c'est sans doute qu'on n'est pas pourri, quoi. Enfin,
moi, ça dépend, ça dépend. Si tu as écrit un bouquin sur le sujet dont, dont tu es en train de parler, tu es légitime à en parler éventuellement. Peut-être pas plus que quelqu'un d'autre, d'ailleurs, mais en tout cas, tu as réfléchi sur le sujet. Quand tu as écrit un bouquin sur, je sais pas, la façon de préparer tes parties de jeu de rôle, quand tu sors une théorie sur autre chose, c'est pas le fait d'avoir écrit ce bouquin-là qui va te rendre légitime, si tu veux.
Oui. Mais en tout cas, enfin voilà, c'est pareil. Hein. Eux, leur podcast sur comment bien jouer à Apocalypse World, comment bien faire des fronts, comment bien jouer à Fate, comment ils sont très intéressants aussi. Hein.
Ouais, ils font plein de trucs intéressants. Moi, si vous comprenez l'anglais, allez les écouter. Ils sont super, voilà, super intéressants. Ouais.
Mais voilà, moi j'ai eu un petit effet de groupier d'engouement sur ce modèle-là. Il m'a éclairé. Il m'a permis de comprendre certaines choses. Mais je sens aussi que il faut que je le digère. Par exemple, moi le Big Model et The Forge, effectivement, en 2006, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai compris à quoi ça tenait que 6 ou 7 ans plus tard, en écoutant la cellule et en allant voir sur les
Moi, encore, j'ai pas tout digéré. Hein, je viens d'apprendre avec vous l'année dernière et j'ai même pas tout lu encore.
Et donc peut-être que cette intuition qu'ils ont sur les couches, peut-être que ça va générer des choses qu'on ne voyait pas avant et que cet éclairage-là permet de mettre en évidence. Mais c'est sans doute à digérer. Hein. Je vous fais juste part de mon embrasement.
Ah mais il y a aucun problème. Et comme dit Maxime sur le chat, pour le citer, on peut se rendre compte que c'est useless, que ça sert à rien. Mais c'est comme ça qu'on avance. Absolument. Avancer une théorie et une hypothèse, la confronter à l'opinion de ses pairs, c'est aussi comme ça qu'on peut avancer. Alors parfois, on a raison, ils ont tort, on s'en rend pas compte et on change d'avis parce qu'ils ont une voix plus forte que la nôtre. Mais dans un certain nombre de cas, si vous présentez une théorie et que le monde est contre vous, il y a peut-être une raison derrière, quoi. C'est pas systématique, mais en tout cas, la discussion va permettre de
pendant très longtemps, la Terre était plate,
ouais, voilà.
Jusqu'à ce qu'on prouve le contraire.
Ça va permettre au minimum de faire avancer tes idées, voilà.
Ouais. Bah, et puis, ultimement, de réfléchir et de mieux jouer aussi, de réfléchir à la manière dont on joue pour améliorer notre jeu, quoi.
Voilà, ou améliorer voilà, la préparation de partie ou même la création de jeu pour s'il y a des gens qui, tu vois, te dire voilà, qu'est-ce qui m'intéresse dans mon jeu ou qu'est-ce qui m'intéresse dans ma partie. Rien que pour ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une manière de voir les choses que j'avais pas envisagé avant et donc ça m'a fait découvrir quelque chose et ça c'est des trucs qui me passionnent, quoi. Découvrir les nouveaux trucs, des nouvelles manières de penser mon hobby, ça me...
Alors, faut faire attention à ce que ce modèle ne t'engage pas sur des voies qui pourraient te perdre, entre guillemets. C'est-à-dire que l'utiliser pour enrichir ta façon d'analyser, c'est très bien. Par contre, restreindre ta façon d'analyser à cet unique modèle, ça, ce serait un problème, probablement.
Ouais, donc voilà. C'est pas du dogme, quoi.
Voilà. Ouais, je suis pas trop... je suis assez perméable au dogme, moi, quand même.
Ah bon ?
Oui, bon, en général...
Mais plusieurs, en même temps.
Ok. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire sur le sujet ou est-ce qu'on va passer
Je crois qu'on a bien fait le tour, là, déjà. Ça fait quoi, 1h30 pour l'en cause.
Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour.
On va laisser nos auditeurs après.
Est-ce qu'il y a. Alors, on va se laisser 2 minutes le temps que mes paroles les atteignent. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Pendant que notre chat réfléchit aux questions, on peut parler de nos prochains rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, c'est déjà lundi prochain, dites donc. C'est de la folie.
Eh ben, dis donc.
Lundi prochain, on va recevoir M. Sébastien Delfino, Wenlock, qui va nous parler de la cartographie de campagne. Alors, ça s'inscrit à la fois dans nos podcasts sur les illustrations et à la fois sur nos podcasts sur les campagnes, parce qu'on avait fait autrefois un podcast sur démarrer une campagne. Et avec lui, on va parler de la façon dont on peut dont on peut orienter, mener une campagne grâce à des cartes et comment on peut gérer tout ça de cette manière-là. Et il a des choses très très intéressantes à dire sur le sujet, on en a déjà un petit peu parlé.
C'est ça, je suis intéressé.
Ouais, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pour le 6 juin. Le podcast suivant des Voix d'Altaride, pur podcast direct, etc., ce sera le 20 juin. Le sujet est encore en délibération, ça dépendra un petit peu de comment avancent les choses, de qui peut être là, etc. J'aimerais bien qu'on parle de cette notion de geste rôliste pour laquelle vous pouvez trouver un article sur le site que j'ai écrit et qui apparemment génère pas mal de réflexions dans le milieu rôliste en ce moment.
Faut que je lise les palines.
On a aussi, comme nous souligne Anne, qui est dans le chat aujourd'hui et pas dans le podcast, la question de la logistique en GN. Et ça, c'est clair que c'est une question qui va vachement nous intéresser parce qu'on a parlé d'écrire pour le GN et d'écrire des scénarios pour le GN. Et à cette occasion, on a parlé un peu de la logistique.
Oui, donc, il faut que les gens nettoient aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui rentrent.
Bah, en fait, ce n'est pas seulement ça, la logistique. C'est aussi comment c'est gérer ton décor, comment augmenter l'immersion en jouant sur le côté physique. Parce qu'à mon avis, cette logistique de GN, il y a peut-être des moyens de l'utiliser de temps en temps dans les parties sur table. Mais bon,
Ok, pardon.
Bah d'ailleurs, je vous renvoie à ce formidable podcast du WMJ avec Maxine et Morgane sur la cellule où ils expliquent que leur manière d'être de jeu à deux voix est sans doute très inspirée de certaines pratiques de GN, quoi. En tout cas, très immersive.
Bon, en tout cas, c'est super sympa. Le jeu auquel ils jouent a l'air vachement sympa. Je crois qu'ils disent que c'est sens, mais je crois pas que c'est sens. Mais bon, bref. Non, je déconne. je trompe. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet en réserve ? On a un sujet sur la création sous contrainte. Pourquoi la création sous contrainte ? Enfin, yes. Sous contrainte, c'est fort, mais pourquoi la création sous contrainte ? Bah, notamment parce que à la fin de la semaine commence le Game Chef. Donc, concours de création rôliste sous contrainte. Alors, personnellement, je vais y participer. N'hésitez pas.
Je crois que j'ai envie d'y participer aussi, moi, cette année. Parce que je voulais le faire l'année dernière, je l'ai raté.
Et ben voilà. Game Chef, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un podcast de discussion avec une auteure de jeux de rôle dont le jeu de rôle va être traduit en français et c'est quelque chose qu'on attend avec un peu d'impatience puisque on en a parlé plusieurs fois. C'est un jeu qui s'appelle Mindjammer, donc un jeu de SF très intéressant, et Sarah Newton, l'auteur de Mindjammer, a accepté de venir nous parler, donc on verra comment on organise ça, si on arrive à l'organiser, etc.
Donc, voilà. Sarah Newton qu'on avait eu la chance de rencontrer
à Rennes, à Eclipse, l'an dernier. Ouais,
moi, j'avais rencontré à Londres à Dragon Meet l'année dernière.
Bah voilà, écoute, formidable. Donc ça, c'est les Voix d'Altaride. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand ça va nous mener. Je ne sais pas si on va, cette année, comme l'année dernière, continuer à diffuser pendant les grandes vacances. Si on peut accumuler des enregistrements avant, on le fera. Si on peut organiser des enregistrements pendant, on le fera. Sinon, on fera, comme beaucoup de podcasts, une pause, on verra bien. J'ai deux, trois choses, de toute façon, à diffuser dans les cartons qui attendent de l'être. D'autre part, nous avons vendredi 10. Vendredi 10, on a une soirée littérature, jeu de rôle à la librairie Charybde, à laquelle on va participer et diffuser en direct, en présence de deux auteurs à la fois de littérature et de jeu de rôle, qui sont Thomas B. Alors Thomas B, vous avez pu l'entendre sur Radio Rôliste. Thomas, c'est un type très très intéressant, qui fait beaucoup de GN et qui parle pas mal de GN nordique. Notamment, je vous invite à aller écouter deux choses de sa part sur Radio Rôliste, qui sont sa prière à Croc en réponse à une interview de Croc, et d'autre part son récit de la convention nordique.
De ses conventions, quoi, parce qu'a priori, il n'a pas fait.
Ah bah c'est le récit de la dernière où il est allé là. C'est Somakuta ou Knutpunkt selon l'année. Convention qui se passe soit en Finlande, soit en Suède, qui s'est passée cette année sur un ferry qui voyage entre les deux et qui est la grande convention de GN nordique. C'est hyper intéressant, donc si vous avez l'occasion, allez l'écouter sur Radio Rôliste. Et il nous parlera à la fois de son expérience d'écriture. Il est en train de publier un espèce de roman épistolaire dans lequel chaque semaine il écrit un petit chapitre et il demande à ses lecteurs de choisir le chapitre suivant. C'est aussi quelqu'un qui fait du slam. Pour l'avoir entendu, il est assez impressionnant dans cette œuvre-là. Et point de vue jeu de rôle, il a participé à la rédaction d'un certain nombre de suppléments INS. Donc, il nominait Stanis Magna Veritas. Deuxième invité de cette soirée, c'est Léo Henry. Donc, Léo Henry, auteur de jeux de rôle. Et d'autre part, donc pareil dans Innominé, etc. Et aussi auteur de romans. Voilà. Ok. Quoi d'autre ben, pour le moment, c'est à peu près tout. Ah oui, et puis.
On ne devait pas inviter Eugénie aussi
Ça viendra. Voilà. Quand
moi,
on va parler du geste.
Moi, je suis un grand fan d'Eugénie. Hein. Je veux qu'elle vienne et qu'on puisse discuter avec elle.
Bon, elle va venir, t'inquiète. Elle ne pouvait pas ce soir. Bon, bah voilà, ce sont des choses qui
arrivent. Oui, non, ça arrive. Hein.
Question de nous, comme on est bloqué sur la date, puisqu'on diffuse en direct, il y a des soirs qui conviennent, d'autres qui ne conviennent pas. Mais elle viendra nous rejoindre et on aura l'occasion de parler. Donc voilà un petit peu pour nos actualités et nos futurs.
Radio Voix d'Altaride.
Voix d'Altaride. Et puis voilà, quoi. Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à donner comme info. Mercredi, on enregistre donc, comme on le disait, Ice Cream for Everyone avec Willem, en anglais.
Et donc, en principe, juste pour vous donner une idée, normalement, ça devrait être... Je recherche mes dates. Alors, normalement, ça devrait sortir à la fin du mois de juin. Donc, voilà. Ce sera... ça sortira fin juin.
Voilà, donc pour les auditeurs, on a décidé de faire un podcast en anglais, parce qu'on parle un peu comme des vaches espagnoles, mais on comprend tous très bien l'anglais, on lit tous très bien l'anglais, et on voulait un peu infuser notre esprit de Frenchie.
Je vais vous interviewer à la...
Chez les bouffeurs de gigots à la sauce à la menthe.
Pas que chez eux, hein, chez les Américains aussi, en fait. Hein.
Ça existe, ce pays-là ? Je croyais que c'était une légende. Alors.
De l'audimat, et la plupart des mecs que t'écoutes... En podcast rôliste. Cool. Il paraît qu'ils viennent de là.
Enfin, ok. Voilà. Merci Julien.
Bah, écoute, on fait coup de cœur.
Coup de gueule, dis donc. Si on en a, parce que nous ne sommes pas forcés d'en avoir, n'est-ce pas ? Alors, on va commencer par Sandra. Non, elle n'est pas là. Xavier.
Sandra, oui, d'ailleurs, non, juste pour rappeler, Sandra n'était pas là. Hein. C'est pas qu'on ne l'a pas laissé parler. Hein,
c'est que... l'enfoiré. Si elle avait été là, elle aurait parlé, dis donc.
Je suis désolé, c'était facile.
Bon, bah, Willem, du coup, alors.
Willem, exactement.
C'était horriblement nul comme truc, mais bon, c'était débile. C'est pas...
elle nous pardonne, parce qu'elle sait qu'on l'aime, Sandra.
Oui.
Voilà, et on la taquine un peu, mais...
Coup de cœur. La nouvelle édition de Seven Seas qu'on avait mentionné tout à l'heure, je suis super content d'avoir l'édition presque finie, et je suis assez content. Enfin, c'est quand même bon. Il a eu les sous pour, hein, mais il a assuré au niveau livraison quand même, mine de rien. Je pense qu'il a déjà presque fini, qu'il voulait absolument avoir le livret de base fini pour Gen Con, et que il a été livré à tous les backers, tous les mecs qui ont participé. Et c'est le bouquin que je vois livré presque le plus rapide, surtout pour des gros projets comme ça. Il est pas encore, il est à 99,5 ou 0,9%. Tu vois, il y a 2-3 coquilles, donc il n'est pas encore prêt à l'impression, mais il va être prêt à l'impression. Donc, enfin, ouais, de ce côté-là, je trouve que c'est quand même assez chapeau pour livrer un gros, gros projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis voilà. J'ai pas vraiment de coup de gueule. J'étais en train d'essayer de réfléchir à un coup de gueule. J'en ai pas vraiment. J'ai un deuxième coup de cœur.
Okay.
Dans mes autres podcasts, alors c'est pas jeu de rôle, mais justement en coup de cœur, il y a un podcast que j'ai commencé à écouter, et je suis en train d'accrocher à mort, qui s'appelle The Heart, et donc du coup ça marche bien sur le podcast coup de cœur. Et c'est un podcast américain qui a des histoires très intimes, très personnelles d'amour, d'intimité sexuelle. Je trouve ça vraiment très très beau, quoi. Il y a des histoires à la fois très belles, très tendres, d'autres très difficiles, mais qui sont vraiment très très bien faites, qui sont assez courtes, mais moi j'accroche beaucoup beaucoup. Donc si vous écoutez les podcasts en anglais, je recommande vivement de checker The Heart.
Ok, on mettra le lien sur, comme d'habitude, ouais, hein, sur les notes de podcast. D'ailleurs, au passage, le podcast d'il y a 2 semaines est monté, il ne me reste qu'à le mettre sur le site et de rédiger les notes de podcast. Voilà. Donc ça devrait arriver assez rapidement dans la semaine, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter jusque-là. Xavier, dis-moi.
Alors bah moi, du coup, ça m'a donné une envie de... Enfin, son histoire de podcast à Willem, ça m'a donné une envie de parler d'un coup de cœur de podcast que j'aime bien, qui s'appelle Hello from the Magic Tavern.
Ah, j'adore aussi.
Qui, alors, je suis désolé hein, pour les francophones, c'est un podcast en anglais délirant où c'est un type qui s'est retrouvé pris dans une faille dimensionnelle derrière son Burger King et il se retrouve dans un monde d'heroic fantasy avec deux autres protagonistes, voilà, un magicien complètement délirant et exubérant et un changeur de forme qui prend l'apparence des gens avec qui il fait l'amour. Et donc à chaque fois, il y a un autre invité qui vient et qui présente un personnage de ce monde et ils explorent ce monde et c'est mais complètement délirant quoi.
Ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup.
Voilà, j'aime beaucoup. Malheureusement, encore une fois, il faudra être anglophone pour le suivre. Voilà. Un coup de gueule, ben le coup de gueule, il tient à moi. J'en étais arrivé à la conclusion que le scénario c'était de la merde dans le jeu de rôle. Donc là, je suis à fond dans le jeu émergent et je m'aperçois que le jeu émergent tout seul, ben ça marche pas aussi bien que je l'espérais. Et donc je suis super déçu. Sans doute que j'avais une attente trop importante de ce point de vue-là, mais je n'ai pas trouvé le Graal et ça me fend le cœur.
C'est triste. Voilà.
Ça ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, mais voilà, il va falloir que je continue. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, ça va m'obliger à continuer à réfléchir, à mouliner, à travailler du chapeau. À la limite, j'aime plutôt ça, donc tant mieux, quoi. Mais voilà, donc, je suis très déçu, très frustré plutôt que déçu, on va dire. Voilà.
Ok, bah écoute, Julien. Mon coup de cœur, il va se porter sur la communauté des ateliers imaginaires et de beaucoup de gens qui tournent autour, parce que en rencontrant tous ces gens, on a des discussions qui sont absolument passionnantes. Et ces discussions passionnantes, elles m'ont même conduite à écrire un article qui m'a permis de formaliser pas mal d'éléments de ce que je pensais sur le jeu de rôle. Et ça génère une quantité de réflexions, d'idées d'articles, de machins qui sont vraiment, vraiment passionnants. Et donc, je suis lancé à plein dans ces réflexions-là. Donc, c'est assez génial. Et le coup de gueule qui va avec, bah, il est extrêmement, extrêmement classique, hein. C'est simplement le fait de ne pas avoir le temps de me consacrer à tout ça, puisque bah, ça prend du temps, etc. etc. Autre coup de gueule, j'en ai pas vraiment pour le moment. On verra comment évoluent les choses au niveau du milieu rôliste. Mais c'est vrai que la réaction qu'il y a pu avoir autour de critiques faites sur des jeux comme 1% qu'on a fait la dernière fois me surprend parfois par la virulence qu'elle génère et ça me déplaît assez en fait de voir que loin d'accepter une remarque au départ, on tombe très très rapidement dans l'insulte des gens qui font ces remarques. Donc c'est très dommage. Cela dit, au passage, les éditeurs de 1% proposent maintenant une couverture différente pour leur jeu, qui ne fait plus apparaître les fesses d'une jeune femme tatouée au premier plan.
Moi je pense que c'était une tactique de vil capitaliste pour faire le buzz et faire parler de leur jeu, et que dès le départ, ils avaient tout à fait prévu ce revirement de situation, et qu'en fait, c'était juste pour un énorme coup marketing, n'est-ce pas, Willem?
Oui. Pardon, qu'est-ce qu'on disait?
Ou pas. Non, mais c'est toi, notre spécialiste.
C'est fort possible, c'est fort possible. Je suis en tout cas content que les remarques qui ont été faites aient été écoutées. Bah écoute, on verra bien. On verra bien. Voilà, comment va évoluer le jeu de rôle français. Au passage, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais de voir une présentation du jeu de rôle par Maxime Chatham, créée sur la chaîne, toute nouvelle chaîne YouTube, Casus TV. Allez la voir, c'est intéressant. Ça ne montre évidemment, encore une fois, qu'une seule version du jeu de rôle, c'est-à-dire la version traditionnelle avec un MJ, des joueurs, etc. etc. Mais, Chatham, c'est quand même une voix qui porte pas mal, et il se pourrait que ça ait un impact significatif sur la population qui s'intéresse au jeu de rôle. Donc, bravo.
Bah, tant mieux s'il y a plus de gens qui commencent à s'intéresser, c'est ça, de toute façon la clé...
Exactement, j'ai tendance à dire.
D'une manière ou d'une autre, quel que soit l'intérêt, plus il y a de gens qui présentent des manières de jouer au jeu de rôle différentes, et plus ça intéresse. Tant qu'ils parlent à l'extérieur, quoi, tant qu'on s'adresse à des gens qui... à tout le monde. Quoi.
Et plus il y en a, plus c'est intéressant d'avoir... Bah, en fait, plus il y a de gens qui parlent de jeu de rôle, qui s'intéressent au jeu de rôle, plus on aura de modèles d'analyse qui vont être intéressants à discuter, justement, qui soient valides ou qui ne soient pas valides.
Et plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui soient attirés, qui tombent dessus, que ça intéresse.
Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de votre écoute fidèle.
C'est toujours un plaisir d'apprendre plein de nouveaux trucs avec vous.
Merci à vous, Maître Poire, sans qui les voix d'Altaride ne seraient pas possibles.
Oh, c'est gentil, mais bon. Tout seul, j'aurais bien du mal à assurer la permanence de quasiment 2 heures à chaque fois. Hein.
Quart d'heure violon, sortez les
voilà,
compilons.
C'est ça, sortez. C'est ça.
Bon, allez, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à très bientôt.
Voilà. De même.
À la prochaine.
Allez. Et SOSMJ, bah, il faudra écouter la rediffusion. J'en ai un en réserve. Il me manque donc un deuxième à enregistrer avant de les diffuser, histoire qu'on rattrape un peu les histoires d'épisodes.
Ah ouais, tiens, bah, je voudrais parler de SOSMJ parce que j'étais pas là la dernière fois quand tu as suggéré un SOSMJ de filles. Moi, en fait, si je pouvais émettre une préférence, j'aimerais bien que ce soit nos filles qui nous écrivent le SOSMJ, comme son
nom. Ah, bah, ce serait génial.
Mais que ce soit la douce voix de Julien qui nous fasse une voix de fille pour le.
Je suis pas sûr d'être capable. Tu m'excuses. Mais...
c'est pour ça. I dare you, my friend.
Je préfère avoir une vraie fille qui nous fait la voix, une vraie femme qui nous fait la voix, parce que la mienne ne sera qu'un travestissement absolument sans intérêt. Donc.
Ouais, ça a de l'intérêt quand même. Hein, mais les deux, on a.
Oui, bah oui, ça va vous faire marrer. Mais à part ça, ça a pas trop d'intérêt. Excusez-moi.
Non, mais il nous faudrait les deux quand même. Je pense une vraie femme. D'ailleurs, une vraie femme MJ et avec Julien qui joue une femme joueur, par exemple.
D'accord. Okay.
Enfin, moi, je peux bien.
Un truc un peu foutraque, quoi. Pas...
Alors, vous me fournissez la robe et puis ensuite on en discute. Et surtout les chaussures. Hein.
Bon, allez.
Bon courage pour les chaussures. Hein.
Allez, on t'en fera des sur mesure.
Bonne soirée à tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Salut.
Bye bye.
Bonsoir, peuple rôliste. Il est tard. C'est la nuit. C'est SOSMJ. Ce soir, nous avons Omega avec nous. Omega a tenu à garder l'anonymat. C'est un ou une MJ qui a une question brûlante à nous poser. Nous t'écoutons, Omega.
Bonjour, c'est Omega, maître du jeu dématérialisé. Spécialiste de table virtuelle. Voyez-vous, j'ai un problème avec mes joueurs. Ils se sont mis en tête que nous devions nous rencontrer pour faire une partie IRL. Or, je suis désolé, mais l'intensité du mystère que je tisse autour du rôle d'Omega rend incompatible cette possibilité. J'ai entendu parler d'une méthode qu'utilisait le grand Gary Gygax autrefois. Et j'aimerais savoir si, à votre avis, il était possible de l'utiliser aujourd'hui pour à la fois accéder à leurs demandes déraisonnables et préserver l'anonymat dont je m'entoure. Après tout, c'est l'ambiance même du jeu qui en dépend.
Omega, vous voulez parler, je suppose, de la façon dont le vieux Gary maîtrisait ses parties cachées derrière un paravent, en travestissant sa voix pour que l'immersion soit maximale.
Je suppose, oui, mais nous avons aujourd'hui des solutions technologiques bien plus efficaces. Cependant, j'ai peur que ces joueurs ne sachent pas se tenir, qu'ils abattent le paravent, et j'ai peur qu'ils me dévoilent, et qu'ils se rendent compte de qui je suis réellement. Comment garder alors ma crédibilité en tant que MJ? Après tout, tant qu'ils ne me voient pas, je peux être aussi bien Thorfinn, le pourfendeur barbare du chaos, que Mélodie, la fille du grand mage de la tour d'Azur. Comment faire? Comment faire pour préserver cette capacité à devenir n'importe qui simplement en utilisant les artifices que me permettent le jeu en ligne? Je ne sais pas, je n'ai jamais joué ailleurs que derrière un ordinateur. J'ai peur. Voyez-vous, j'ai peur.
J'ai peur, Omega, de ne pas avoir réellement de conseils à te donner. Néanmoins, je pense que tu es face à une renégociation de votre contrat social et qu'il faut que tu fasses des concessions si tu veux continuer à jouer avec ces joueurs. S'ils te demandent de jouer en direct, les uns en face des autres, c'est qu'ils veulent renforcer vos liens. C'est qu'ils veulent passer de partenaire de jeu, peut-être vers une amitié naissante qui vous conduira sur des chemins merveilleux de complicité rôliste. Ainsi, vous pourrez aborder des thèmes beaucoup plus chargés, vous vous connaîtrez mieux et peut-être enfin pourrez-vous découvrir des jeux différents. Quant à vous, peuple rôliste, à bientôt pour un prochain SOSMJ.